Dans le tempo, c'est déjà l'épisode 40.
Daz, tu te rends compte, épisode 40.
40. Comme le temps passe.
Allez, c'est parti. Eh bien voilà, comment vas-tu mon cher Daz?
Bah écoute, ça va super, émission 40, l'émission de la maturité.
C'est probablement ça.
Ouais, en plus là on sort de notre tunnel hip-hop là qui franchement ça saoulait tout le monde, donc c'est bien.
On est d'accord.
Ouais, j'en peux plus.
Sur les rappeurs c'est sympa, mais...
Mais c'est bon, c'est limité et c'est limitant.
Limité.
Ouais, donc ça suffit.
Mais ça tombe bien Daz, parce qu'on a un univers complètement différent aujourd'hui.
Et oui.
Puisque nous recevons Flora Fishback, Flora... Comment tu veux qu'on t'appelle durant cette émission?
Ah, Flora, c'est vachement...
Flora, c'est mieux?
Ouais, j'ai fait cette erreur de prendre le nom de famille comme un nom entier, et ça fait un peu blase de groupe.
Mais ça sonne bien, hein?
Fishback. C'est stylé, en vrai, Fishback.
Oui,
Fishback,
mais on me ramène au poisson, ce qui n'a rien à voir. Qu'importe.
Bah si, ça veut dire ruisseau des poissons ou...
Vous êtes bien renseigné.
Ah oui, j'ai lu les fiches Wikipédia, moi. Je fais mes enquêtes avant les lives, bien sûr, toujours.
Bon, Flora, en tout cas, c'est un grand plaisir de te recevoir.
Merci de m'accueillir.
Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es artiste, musicienne, autrice, compositrice, interprète... Tu as ton actif. On peut dire que le premier truc qui marche bien pour toi, c'est l'EP en 2015 intitulé Fishback d'ailleurs.
Ouais.
Et puis tout simplement.
Ouais.
Ouais. Enfin, pas de nom officiel, c'est Fishback.
Oui, parce que c'est un truc adolescent. Le premier disque qu'on sort en général, tu sais, on est dans sa chambre, on fait nos musiques, et puis d'un coup, on doit le donner le truc, alors mettre un nom dessus, c'est étonnant, ouais.
C'était compliqué.
Ouais.
En tout cas, t'as mis moins de complexité. C'était moins compliqué de trouver ensuite parce que t'as sorti 3 albums. Dont une version de luxe, on va être un peu plus précis. En gros, tu as à ta merci en 2017, version de luxe un an après en 2018, et puis le tout dernier album en date, c'est Avec les yeux en 2022. T'as aussi un paquet de collaborations. Je suis tombé sur des trucs, je ne connaissais pas ce morceau, il est très cool avec Lockhart.
Ouais.
Qui date un peu maintenant, mais très bonne collaboration, le morceau est trop cool.
Ultra cool, un garçon que j'ai rencontré par hasard dans un festival, on est venus très amis, il avait un morceau et on a chanté dans un registre qui n'était pas forcément le mien, mais c'est surtout un morceau d'une grande amitié. Et pour ça c'est trop que tu me le rappelles ce morceau.
Des collaborations aussi avec François Atlas, je suis tombé sur un remix de Feu Chatterton aussi. Alors j'ai été étonné que ça soit intitulé remix, c'est parce que t'as vraiment revu complètement le morceau t'as...
En fait les Feu Chatterton, que j'adore. On fait un appel à Remix sur leur page Instagram il y a quelques temps et ils ont envoyé les stems quoi, tu pouvais télécharger les pistes et faire toi-même ton remix, c'était vraiment un appel au remix et j'ai créé une adresse mail parce que c'est mes copains en fait, on se connaît. Et j'ai créé une adresse mail anonyme, j'ai fait le remix et je leur ai envoyé. Et c'est avéré qu'ils ont sélectionné mon remix parmi plein de...
Sans savoir que c'était moi.
Mais je voulais vraiment être à la même échelle que le Kidam qui fait un remix.
Pas de traitement de faveur.
Pas de traitement de faveur. Je voulais pas qu'ils me mettent en valeur parce que c'était un truc de copain, etc. Et par hasard, ils ont quand même choisi ce remix. Donc je suis vraiment contente. C'était mon premier exercice de remix. J'adore ce morceau, j'adore ce groupe. Et puis j'ai fait ça en une soirée, c'était drôle. Et on l'a sorti, donc c'est vraiment cool.
Très cool. T'as des histoires étonnantes de toute façon parce que je suis tombé aussi sur un morceau sur l'album de luxe Pouvoir de Bernard Lavillier, qui est un album qui date de 1990 sur lequel tu reprends un morceau de Bernard Lavillier et tu apparais dans la version de luxe.
Ouais, alors ça c'est fou, j'avais fait une reprise d'un morceau de Lavillier qui s'appelle Nightbird, qui est un morceau qui est sur le que je vous recommande.
Qui est sur le premier EP, si je dis pas de bêtises.
Ma reprise, oui.
Ouais.
Et cet album-là, enfin ce morceau-là, pardon, de Lavillier, je le trouvais fouissime, et j'en ai fait une toute autre version, il l'a su, et il m'a écrit. J'étais dans un drôle d'état, t'imagines bien. Et quand il a voulu rééditer cet album-là, qui était un album très étrange, mais très visionnaire, je crois, à la fois, parce que les paroles de Pouvoir résonnent d'autant plus aujourd'hui, eh bien, il m'a invité, d'ailleurs, et Feu Chatterton et Jeanne Chéral aussi, à reprendre un des morceaux de l'album, et j'ai fait un truc très, très psyché, fantomatique. C'était un bon exercice, et un honneur, quand même, de pouvoir...
Bah, c'est quelque chose.
Ouais.
Moi, j'aime bien Bernard Lavilliers.
Bah, c'est un type...
Ça commence mal.
Non, 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 mais moi, enfin, Bernard Lavilliers, on en parlait justement dehors là, avec, je sais plus avec qui, c'était avec Ellie ou Sam.
Ouais.
Bon, bah c'est un mec, dès qu'il découvre un pays du tiers-monde, il faisait un album. Moi, je trouve ça cool, tu vois. Non mais,
tu vois, c'est assez bien résumé.
Mec, il part en Guyane, il fait un album, bim, tu vois, il part au Brésil, il fait un album. Et donc, c'est
très
cool.
Vrai.
Ouais, c'est un peu
très
Tintin,
vrai.
Tu vois.
Attention, c'était aussi une époque, tu sais. Oui. Même dans les années 80, par exemple, il y a eu beaucoup de trucs de, oh là là, on s'est vachement éclaté, on a pris plein de coke, on a fait de la connerie avec du plastique et du pétrole. Ah, en fait, il y a plein de gens qui souffrent. Ouais. Ce serait peut-être pas mal qu'on en parle, en fait,
de
cette problématique. Mmh. Donc, il y avait un truc comme ça. Mais par contre, c'est vrai que Lavilliers, donc, c'est très drôle ce que tu dis, et je trouve assez juste. Cependant, c'est un mec qui a été très constant dans sa carrière, dans sa musique.
Ah oui, bien sûr.
Et, là où beaucoup d'artistes n'ont pas su, percer, c'est facile. Durer, c'est plus dur.
Ah, ouais, complètement. Ouais.
Et Lavilliers, il a ce truc où il est constant. Il te proposera toujours un truc assez fort avec des textes, quand même.
Ouais,
très intelligent, très fort. Toujours un peu salsa, un peu world.
Ouais, c'est world.
Le mot world, il est un peu étrange parce que notre génération.
Oui, même on peut le dire.
On est d'accord. Oui.
Très groove, très, et toujours en s'entourant de musiciens locaux, tu vois, de, alors, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle?
Non, je sais pas.
Je pense
qu'on peut lui reconnaître un vrai amour, je crois, pour les autres musiques. Et puis, c'est con, mais ça colle, tu sais, aussi avec ce qu'il mettait en avant, son background, Saint-Etienne, milieu ouvrier, etc. Et qui, tu sais, le voyageur, etc.
Oui, mais c'était ça. Moi, j'aimais bien le délire.
Un peu cliché, parfois, mais qui, fondamentalement, tu te dis, le personnage est crédible, authentique, je crois.
Dans l'art, en tout cas, pour tout ce qui est appropriation culturelle, je peux comprendre que il y a des choses qui bouleverse et que quand c'est un pays dominant qui s'approprie quelque chose d'une culture qui a été dominée,
bien sûr.
Évidemment ça peut être problématique parce que on prend la richesse de ce monde-là. Et en même temps, par exemple, pour la mode, je porte un chapeau du Caucase, on pourrait dire que c'est l'appropriation culturelle. En fait, c'est un grand amour pour cette coupe de chapeau que j'ai, pour ce peignoir, là, que c'est des Québécois qui l'ont fait. C'est un grand amour et une façon aussi de le mettre en avant.
Bien sûr.
Il faut pas qu'elle soit maladroite, il faut qu'elle soit bien amenée.
Ouais, mais c'est très touchy de parler de ça maintenant, alors que effectivement dans les années 80, personne se posait la question. Si t'avais envie en tant que femme de te déguiser en geisha, il y a personne qui venait t'emmerder.
Je crois que le vrai truc, et on commence sur les chapeaux de roue ce podcast, sur les vrais sujets.
Pourquoi pas?
Mais c'est utiliser des codes esthétiques parce qu'on les trouve beaux, etc., c'est une chose. Ce qui est emmerdant, en fait, c'est quand ça devient un business, que tu génères de l'argent et que tu ne donnes aucun crédit ou aucun fric aux gens dont tu utilises la culture initiale, quand même.
Mais ça, l'industrie du luxe le fait aussi.
Là, c'est un peu plus embêtant.
On va pas dénoncer, mais quand même.
Après, quand c'est dans un cadre artistique, culturel, moi, je trouve ça plutôt beau de s'inspirer de ce que font les autres, sinon.
Ouais, et puis surtout, on n'a pas su tout faire. Ouais. C'est-à-dire que, à la mode, dans la mode et dans la musique, nous, les Français, on n'a pas toujours été les plus, on a le luxe, mais on n'a pas toujours été les plus élégants au niveau des lignes. Pardon, je suis désolée, mais il y a pas mal de chapeaux. Moi, j'aime beaucoup la Russie et les chapkas. Je trouve que c'est très intelligent, ce chapeau de chapka. Je trouve que c'est vraiment bien. C'est super, les kimonos. C'est
cool.
C'est super.
Bon, vas-y, parle-nous de tes goûts vestimentaires.
Mais non, je parle de mode, mais ça pourrait être plein de trucs. Il y a des civilisations qui ont été plus intelligentes que nous sur certains trucs. Et c'est bien qu'ils nous apprennent des trucs, en vrai.
Ouais, bien sûr.
C'est vrai. Ce que je vous propose, c'est passionnant. Peut-être qu'on lancera ce sera plus dans le tempo, ça sera dans le pantalon. Non, je
dans
sais
le
pas, dès le,
dans le falzar.
Dans le falzar,
dans
on
le
on parlera vêtements, on te réinvitera, Flora, pour parler vêtements. Mais je vous propose qu'on commence par parler de ta musique. Quand même, c'est un peu là pour ça que t'es là. On va diviser en gros la discussion en trois parties, j'imagine, dans ce podcast, à savoir parler d'abord vraiment de la musique de Flora, comment elle s'y prend, comment elle compose, comment elle s'entoure, etc. Dans un deuxième temps, j'aimerais, parce qu'on va le voir assez vite, ta musique est très teintée de l'esprit années 80, qu'on parle d'une thématique, je sais, tu l'as déjà abordée, mais on va essayer d'aller un peu plus en profondeur, en tout cas de questionner, puis ce sera court si ça doit l'être, mais de la question de l'esthétique années 80, est-ce qu'elle est devenue fondamentalement intemporelle? Parce qu'on est dans un revival depuis quasiment 20 ans des années 80. Donc on en discutera. Et puis une dernière partie, parce que c'est un truc qui nous tient à cœur dans cette émission, c'est de parler aussi du côté un peu plus industrie,
business,
économique, etc. de la musique. Et toi, comment tu envisages tout ça? Comment tu construis ta carrière? Comment tu es entouré? Quel choix tu fais, etc.
Bah ça tombe bien, c'est un peu les trois grands points de nos métiers.
Bah c'est parfait.
Ouais.
Putain, en fait, elle est bien pensée cette émission.
C'est incroyable. Je sais pas qui est aux commandes de l'édito, mais
moi, je suis vraiment ravi d'être avec vous.
Mais oui, mais tu sais quoi, ça fait trop plaisir parce que il faut dire que Flora, elle nous suit.
Oui.
Elle suit régulièrement ce qu'on fait chez Monte le Son, dans le podcast, etc.
Ça fait plaisir.
Mais j'ai été invitée parce que Il y a eu un follow et follow back sur Insta où je me suis dit, il faut que je suive en fait ce que font ces mecs parce que je trouve ça super votre façon de parler de la musique. Vous me faites découvrir plein de trucs.
Trop cool.
Parce que c'est vrai que en tant que musicienne, je suis dans un réseau, tu vois. Et ce réseau-là, on nous dit qu'il est un peu le seul dans lequel on peut s'épanouir en tant que musicien. Que ça... et en fait, non, il y a plein de choses, il y a plein de milieux de la musique. Ouais. Et moi, j'en suis très très curieuse, quoi.
Bah écoute, ça fait plaisir.
Si, merci pour ces découvertes.
C'est extrêmement valorisant pour nous parce que c'est un peu le but aussi, je crois, quand tu fais du contenu comme ça, c'est montrer la diversité, la richesse de la musique et essayer de passionner les gens autour de ça.
Partager, le partage c'est important.
Absolument.
Une valeur cardinale de cette émission.
Ta musique, Flora, donc pour cette première partie, j'aimerais qu'on l'aborde un peu du peut-être côté d'abord construction un peu, parce que j'ai appris qu'en gros tu maquettes beaucoup à la maison, parce que t'es à l'origine quasiment de l'intégralité de ta musique, que ce soit les paroles, la composition, après t'es accompagné sur la production évidemment, sur l'arrangement, etc. Mais la première étape, c'est toi, ton côté. Comment ça se passe? Tu fais tout à la maison, t'as ton séquenceur, t'enregistres une carte son, un micro, quelques instruments, comment ça se passe?
C'est drôle parce qu'en fait je crois que je commence par les arrangements.
Ok. Oh.
Trop bizarre. En fait, il y a un truc génial, c'est que moi, je faisais partie d'un groupe. Donc, je viens des Ardennes, qui est une petite bourgade dans le nord de la France. Et culture très rock, très métal.
Okay.
C'est vraiment le truc là-bas. Enfin, à l'époque, début des années 2000, parce qu'il y avait un héritage des années 90. À l'époque, la province était un peu en retard par rapport à ce qui se faisait dans le monde. Mais gros rockers quoi, tous les frontaliers sont un peu comme ça, que ce soit le sud-ouest, le nord-est, etc. Les Bretons sont très rock et donc j'ai fait partie d'un groupe parce que c'était chouette de faire un groupe. On s'ennuyait, il y avait pas trop internet, tout ça, on faisait des groupes et d'un coup sont apparus les tablettes. Les FL Studio, il y avait un copain qui maîtrisait des FL Studio, c'était génial. Et on faisait des prods.
Et les versions sur iPad, sur tablette, etc.
Bien sûr. Et donc j'avais ce groupe-là. Ce groupe, ça a duré quelques années. On jouait dans des bars dans la région. Et puis le groupe s'est arrêté, comme tous les groupes d'ados quoi. et j'avais mon ingé son qui avait acheté le premier iPad. Et il n'était pas souvent là à la maison. J'étais en coloc avec lui. Et du coup, il y avait l'iPad à la maison. Il dit vas-y, utilise-le. Il y a GarageBand dedans.
Ouais.
Fatal. Changement de vie. Ce truc, il m'a mis ça dans les mains.
Ouais.
Changement de vie. Et j'ai commencé à faire des petites prods dedans. Il y avait que 8 pistes d'ailleurs dans ce logiciel à l'époque. Donc, t'as été limité à 8 pistes avec voix, synthé, etc. Le nombre de synthés était très limité. Il fallait faire une chanson avec ça. Et puis, moi qui venais du punk et d'une scène très rock, je me mettais à chanter au casque, comme ça, dans le micro de l'iPad, et à faire des petites prods, tu vois. Et encore aujourd'hui, je crois que ce côté matos un peu cheap, eh ben il est merveilleux. Travailler avec les outils que tu as et qui sont pas forcément les plus grandiloquents. Aujourd'hui, on adore les grands studios avec des synthés et des guitares incroyables.
Ce qui est cool aussi.
Bien sûr.
Okay.
Mais
la contrainte en tout cas technique d'un outil. Ouais. Enfin, on a tous eu un jouet enfant, un jouet de musique qui nous a amené à vouloir travailler un instrument. Ben moi, c'est en tout cas, ça a été ça.
Et cet outil, c'est tes premières approches même de la composition, vraiment en tant que telle?
Bah ouais.
Ok.
J'avais pas l'idée d'être compositrice, mais le format, en fait, aussi. Ah, le MIDI.
Ouais.
Écrire en MIDI, voilà. Ouais. Comme je suis pas une très grande joueuse de piano et de synthé, de pouvoir écrire toutes mes harmonies en MIDI et de visualiser la musique, ça, c'est très nouveau quand même.
Ouais.
Enfin, à part pour les vrais geeks, les partitions, tout ça, je pense que les mecs. Ils écrivaient une partition, ils avaient les notes dans la tête. Enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle nous du génie. Et mais d'ailleurs le MIDI, c'était fou. Enfin, c'est ça qui a tout.
Pour ceux qui nous suivent et qui sont un peu moins techos dans la musique, c'est un protocole en fait, un langage entre guillemets, ce qui permet par exemple d'écrire de la musique et ensuite d'envoyer le signal dans des instruments différents, etc. Donc effectivement,
quand déplacer les notes,
déplacer quand t'es pas super claviériste, par exemple, effectivement, faire une ligne mélodique ou je ne sais quoi, ou des accords, etc., c'est plus simple quoi avec le MIDI.
Moi, j'ai souvent dit, moi, ma façon d'être musicienne, c'est de déplacer des carrés de haut en bas et de gauche à droite.
Ah, donc tu utilises vraiment le piano roll et t'y vas comme ça, tu cliques et...
Ouais, je fais des accords de merde.
Okay.
Et puis après, je bouge des carrés dans l'espace et le temps.
Et comment tu bascules de... Alors, donc tu disais, t'es plutôt dans un circuit punk, etc. rock, à la musique que tu fais aujourd'hui. Est-ce que c'est à travers ces outils justement que tu fais un peu avec ce que tu as aussi à disposition, ou c'était une envie initiale artistique, t'avais envie, j'ai envie de faire cette musique?
Non, pas du tout. Il y avait une envie de... Je pense qu'on fait tous de la musique. Il y a un truc qui est génial dans la musique, c'est que contrairement à un comédien ou quoi, ou n'importe quel autre métier, si personne veut t'écouter ou te regarder, bah tu peux continuer à en faire. Mm-hmm. Tu vois, c'est un truc qui t'en... Il y a plein de musiciens du dimanche, peut-être qu'ils nous regardent d'ailleurs. Je sais pas quelle caméra regarde quand je dis ça, parce que on s'adresse à des gens. Mais
bah, t'en as deux là déjà qui te regardent.
Hein. Bien sûr.
En regardant là, en tout cas, effectivement,
voilà,
tu vas t'intéresser aux gens.
On est tous des musiciens du dimanche avant tout. Ouais. À part si on est déjà une famille ou faire des concerts.
Effectivement, musicien du dimanche là, ça nous correspond
complètement.
C'est la plus belle. C'est la plus belle émotion, parce que c'est intime, ça fait du bien, en fait, c'est une thérapie la musique, ça te fait du bien d'écouter de la musique, d'en faire, même de gratouiller. Mon père a acheté une guitare, il a jamais joué de sa guitare, il était juste content de faire
gling.
C'était son plaisir, et puis d'avoir une guitare dans la maison. Enfin, ouais. C'est beau, en fait, c'est un sentiment qui est assez joli. Parce que ça vaut rien que l'épanouissement d'un truc de beauté, très intime, donc ça, je trouve ça bien. Et donc, non, il n'y avait pas cette volonté de... composer des trucs. mais après, il y a eu Internet, donc c'était cool d'avoir un SoundCloud. Donc, je faisais mes petites maquettes, je fais un SoundCloud, je les partage à mes potes. Hey, les gars, écoutez, j'ai fait une petite prod et tout ça. Et puis, de fil en aiguille, comme le SoundCloud était public, j'ai rencontré des gens par Internet. Je te parlais d'Armanet en off. On s'est rencontrés comme ça. Juliette Armanet, on s'est rencontrés sur SoundCloud.
Ok.
Elle avait écouté, j'avais fait une reprise d'un morceau qui s'appelait La Babouche.
Ouais.
De Salim Alali. Morceau que j'adore. Et, elle l'a découvert, on s'est écrit, on a échangé, tatatitat et tout. Pareil, un ingé son qui m'a trouvé, qui me dit, attends, faut que j'envoie tes maquettes, et puis de fil en aiguille, voilà.
Et comment ils tombaient sur ton SoundCloud, ces gens-là? Parce que tu communiquais un peu quand même autour de cette musique?
Parce que aussi j'étais une folle de musique, et donc j'allais dans tous les concerts. Okay. Donc, dans tous les concerts de Champagne-Ardennes, je prenais des trains, et j'allais voir les concerts de rock, un peu partout, puis, par hasard, tu bois une bière, tu rencontres un gars, ah, tu fais quoi? Je fais un woom, ou si je fais un peu de musique, et puis tu parles, et puis t'échanges ton SoundCloud, et puis voilà.
Le réseau.
Ouais.
Conseil pour tous ceux qui nous regardent, nous écoutent, ceux qui ont envie de travailler dans la musique, soit en tant qu'artiste ou autre.
Ouais.
Aller dans les concerts et rencontrer des gens, c'est quand même en général une bonne solution.
Ça marche comme ça, et c'est super parce que là on parle de réseau comme si c'était un truc un peu obscur et copinage, t'as assis là à tout. Pas du tout. Enfin, quoi que si, en fait, l'amitié... parce que l'amitié est très importante. On ferait rien sans les autres. Et on ferait rien si on n'avait pas un truc commun avec des gens, un amour commun pour certaines mélodies. Et puis, donc, il y a la musique, les musiciens, mais les ingés, les producteurs, les attachés de presse...
Les gens qui t'accompagnent sur les tournées.
Les gens qui font des webzines, qui ont des petites pages Insta de mise en valeur de choses qu'ils aiment. En fait, on forme un tout, tu vois. Ou le mec qui sert au bar, ou la femme qui nettoie les toilettes aussi après le concert. Tout ça forme un tout, et ça marche comme ça, et presque tant mieux, parce que au moins c'est un bon rapport.
Tu parlais de clavier, tu joues un peu de gratte aussi, un peu de guitare. C'est très vite, tu t'es mis à...
Attends, moi, je suis méga snob.
Pourquoi?
Parce que j'ai un problème avec... la gratte.
Tu joues pas la guitare. Le terme ou
la guitare? De la guitare, J'ai un problème, je suis extrêmement snob. Par exemple, Zikos.
Ouais.
Tu n'utilises pas le terme.
J'ai interdit en tournée.
C'est vrai.
Je dis, on n'est pas des Zikos, on est des musiciens.
C'est
hyper snob.
Moi, j'aime bien utiliser ce terme.
Mais la gratte, la gratte, c'est un peu, on joue de la gratte. Attention, j'adore les musiciens du dimanche, mais
Tu nous excuses, on reprend, on dit, tu joues de la guitare, ça va comme ça ou?
J'ai été hyper snob là, tout de suite.
Un peu, mais les gens me jugeront, c'est pas grave.
Les mots ont un sens.
Ouais, je joue un peu de guitare. Je joue un peu de gratte. Je suis pas une vraie guitariste parce que j'ai une guitare très cheap qui m'a coûté 300 balles et que j'adore, donc
Et il y a des super guitares à 300 balles aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est un expert, il peut te...
Je peux t'en parler. Pendant 3 ans,
il en a testé.
J'en ai vu des guitares, j'en ai newsé des guitares.
Pourquoi?
Parce que je bossais pour Audiofanzine avant et j'étais le chef de la rubrique guitare, donc je testais les guitares, je newsais tout ce qui sortait.
Ok.
Etc.
Il joue de la gratte.
Oui.
Il joue de la gratte.
Absolument.
C'est un gratteux.
On a dit qu'on disait pas.
C'est un zikos.
Non, c'est moi, horrible. Je me reprends, je me déteste. Ça va pas
du tout. Non, mais écoute. Parlons de guitare.
Oui.
Non, tu t'es mis à ces instruments pour ta propre musique ou tu le jouais déjà dans tes précédents groupes, etc. Ou...
Ah non, mon précédent groupe, j'avais un peu de guitare, mais d'ailleurs, je pense que j'ai le même niveau qu'à mes 15 ans, c'est-à-dire trois barrés. Horrible. Et puis les synthés, c'était mon pote avec qui j'ai monté mon premier groupe, qui m'a dit, mais attends, t'as pas des instruments chez toi? J'ai dit, si, j'ai un vieux Yamaha, mais c'est un jouet en plastique, là.
Ouais.
On s'en fout, on le met dans un ampli, on met un trémolo, tu vas voir ton son, on va le faire aller ailleurs. Il avait trop raison, ce mec, c'était la bonne école, quoi. Mmh. Parce qu'il m'a dit, on s'en fout que ce soit un truc cheap. On va le faire sonner autrement, on va le faire passer dans des bizarreries. Et donc, je suis pas du tout une pianiste, mais j'aime bien le bidouillage, quoi.
Ouais. Il y a un terme équivalent à gratte pour le piano? Il y en a pas, hein.
Il y en a pas.
Ben non, parce que le piano,
c'est plus noble, tu vois, le piano.
Ouais,
c'est snob. Le piano de base est snob.
Ouais.
Donc il y a pas de.
Ouais, c'est
j'ai honte de ce que je viens de dire, je retire tout. Hein.
C'est vrai. Oh, mais non, mais attends, on a le droit d'être snob aussi.
Je veux dire, je passe ma main devant la bouche pour le micro, c'est, ça va pas du tout. Tu vois, la gêne
tout
totale.
D'ailleurs, attends, plutôt que de parler de snobisme, on pourrait parler d'exigence. C'est mieux quand même.
C'est mieux dit.
C'est mieux dit. C'est la même chose. C'est exactement la même chose, mais exigence. Voilà. Je ne suis pas snob, je suis exigeant. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir.
Il y a un autre élément qui est essentiel dans ta musique. Je dirais même que. D'un regard extérieur, j'ai l'impression que c'est ce qui te tient le plus à cœur, c'est la voix. Le texte aussi, alors ça, je sais pas si ça te tient plus que ça à cœur, le texte, mais on peut en discuter. Très vite aussi, tu t'es dit, je veux chanter sur cette musique et je veux écrire moi-même les paroles. Alors, je sais que parfois, tu es accompagné pour les paroles.
Oui.
Mais c'est le côté pas seulement interprète, mais aussi écrire, c'était un truc important pour toi?
Je t'avoue que j'ai pas vraiment calculé si c'était important que je le fasse moi-même. Ce qui est important, c'est que l'idée soit bonne. Et quand il est arrivé des rencontres, notamment avec Olivier Valois, qui a écrit pas mal de textes avec moi, c'est simplement cette rencontre, et il m'a envoyé des mots qui étaient fous. Il disait mieux ce que je pensais que ce que je pensais.
Ouais.
C'est ça les universalistes, avec quand même pas mal de folie et de poésie, et de trucs qu'on capte pas tout de suite. Mais non, c'était pas important de le faire soi-même. C'était par contre, j'en reviens juste à la voix. Ouais, ça par contre... L'exploration vocale, c'est assez chouette. La voix, c'est l'instrument que tu peux transporter partout, que tu choisis pas, et en même temps que tu peux travailler vraiment. Ça, j'y crois. Et sans moyens, sans pognon, sans rien, là, ta voix, tu peux la bosser, quoi.
Tu penses que t'avais un truc quand même quasi du domaine de l'inné, dans le timbre, etc.
Un don, par exemple.
Ou
putain, les gars, c'est tellement touchy de poser ce genre de questions. Ben, sûr que non. Évidemment que non. Ça, tu le sais pas. Alors on déteste tous sa voix. Imaginez, vous vous rappelez la première fois que vous êtes entendu enregistrer. Cata. Comment ça, c'est ça ma voix?
Mais tu sais quoi? Mais moi, j'ai jamais eu trop ce problème. J'ai toujours bien aimé ma voix, je crois. Alors après, je suis pas chanteur et je chante pas très bien en plus.
C'est
mais juste ma voix parler. Mais comme ça, on partage, on prend un peu de snobisme chacun. C'est cool.
Non, c'est pas du snobisme, c'est que tu t'es connu assez vite et ça, c'est vachement cool.
Parce que tu l'apprécies plus ta voix aujourd'hui?
Bah, en tout cas, je sais travailler avec elle.
Ouais.
Et en tout cas, on n'a pas la voix comme ça résonne dans nos os,
ouais,
dans notre tête, dans tous nos trucs. On n'a pas la voix que les gens entendent.
Ouais. Et ça, c'est un truc trop bien parce que je rebondis sur la gratte.
On est foutu pour le raisonner.
Non, mais ça, c'est un truc. Alors, c'est pas le cas avec la guitare électrique parce que ça passe par l'ampli. L'ampli, tu te le prends de la même manière que les autres, entre guillemets. Une guitare acoustique,
ouais,
quand tu la joues toi et ceux qui la perçoivent en face, ça n'a rien à voir. Et je pense, enfin, je faisais ce parallèle guitare-voix, où effectivement, comment ça résonne en toi, etc., c'est pas la même chose que ce que tu proposes aux autres.
Ouais, quand tu joues Jeux Interdits sur la plage, c'est pas ce que les gens entendent.
Je t'assure, déjà, ne serait-ce parce que la rosa s'est orientée d'une certaine manière, que la projection du son se passe d'une certaine manière, et puis en plus, tu sais, t'as les vibrations, etc., comme c'est collé à ton corps, etc., donc il y a quand même un ressenti assez différent quand tu joues, et ce qui est entendu par les autres.
Ah, c'est intéressant, comme...
C'est très certain, et je m'étais jamais posé la question par rapport aux guitares acoustiques, parce que j'en joue peu, et que ça m'a pas autant choqué que la voix. Parce qu'une guitare, quand bien même il y a un tas de guitares, un tas de cordes, etc., ce sera jamais aussi singulier qu'une voix, parce qu'une voix, il n'y a pas que la voix et ni le timbre, il y a aussi la manière de bouger le corps, etc. Mais je m'étais jamais fait la réflexion pour la guitare. Genre, la prochaine fois, je vais prendre la petite Gibson, là, je vais y penser.
Mais fais l'exercice et après, tu l'attends à quelqu'un qui la joue devant toi.
Ouais.
Alors, c'est difficile à juger parce que c'est pas le même jeu, etc., mais ça te donne une idée quand même. Flora, on parlait de la voix, il faut qu'on la fasse écouter un peu à nos auditeurs, qu'on passe quelques extraits. Peut-être qu'on peut faire un truc un peu chronologique, est-ce qu'on prend du... Et il y a des trucs dispo sur Internet de ce que tu faisais avant, avec ton groupe?
Mais sur ça,
oui,
clair.
Bien sûr, comme mon Skyblog, il est sur Internet.
C'est cas. Vrai
on, écoute, un Skyblog.
On s'écoute un petit truc ou pas?
Bien sûr, j'ai un Skyblog, ouais. Je vous le donnerai pas.
T'assumes ou pas cette musique de l'époque?
Absolument, ouais, j'assume parce que ce qui est important, je crois, dans une vie... C'est l'évolution. C'est ok d'avoir fait des trucs un peu merdiques ou, enfin, qu'on trouve merdiques parce qu'à l'époque, on l'a fait avec tout notre cœur. Et, bah ouais, j'étais gamine. Ouais, j'avais 19 ans. Bah oui. Et,
normal.
Et donc, ce qui est drôle, c'est comment on évolue. Ça, c'est beaucoup plus intéressant que de se juger.
Est-ce qu'il y a un morceau? Alors, très clairement, sur le premier EP, je pense que l'un des plus, celui qui a le tourné le plus, c'est probablement Mortel.
Ouais.
Est-ce que toi, t'en as un qui tient plus à cœur qu'un autre de morceau?
Non, c'est Mortel, bien. Ça je pense bien que c'était le premier, en tout cas, le premier, truc un peu véritable et que j'ai pu donner.
Ouais.
À l'époque, ouais.
Bah écoute, on s'écoute un extrait de Mortel. Fishback. Tu sais, comme pour les droits, on met pas trop longtemps, j'avance un peu.
Voilà, l'avantage, ouais, c'est qu'on a l'artiste avec nous, donc normalement, ça devrait aller. Quand même.
Ouais, t'inquiète pas, j'appellerai la balie.
Ok. Donc là, on est sur le premier EP 2015.
10 years old and me, quoi.
tu réécoutes parfois tes morceaux?
Ah bah non, parce que je les joue en live tout le temps. Par exemple, ce morceau-là, j'ai pas le choix. Il ouais. Y a un truc très bizarre dans ce métier de musicien. On va toute notre vie. Toute notre vie. S'il y a un morceau qui est un peu marchouillé.
Tu vas le faire.
T'es obligé.
Ouais.
Et des fois, t'as plus envie parce que t'es passé à autre chose.
T'as évolué, ouais.
Et en même temps. Tu vois, hier, j'ai joué dans un truc qui était un concert un peu corporate, un peu privé, parce qu'on m'avait appelé, c'était cool. Et je traînais un peu des pattes, quoi, d'aller chanter. Et au moment où je le chante, une grande joie m'empare parce que bah, les gens sont trop contents de l'entendre et c'est grâce à ça aussi que bah, vous m'avez invité aujourd'hui. Enfin, il y a un truc de... Je suis reconnaissante, je l'aime plus trop, enfin c'est pas que je l'aime plus trop, mais je suis plus cette nana-là,
ouais,
qui a chanté ça, tu vois. Mmh. Mais je l'aime bien, puis grâce à ça, à elle, je peux me permettre de faire d'autres choses aujourd'hui. Donc oui, j'ai un rapport assez tendre finalement avec cette musique-là.
Ouais, il y a pas de truc que tu t'interdis de jouer en disant bah non, c'est bon, je suis passé à autre chose. Bah,
après, on peut toujours se réinventer, c'est-à-dire qu'on pourra aussi réarranger un morceau,
ouais,
l'amener autrement en live si vraiment on est agacé. Et ça, je peux le comprendre. Mais moi-même, tu vois, il y a quelques années, j'étais en vacances et là, j'apprends que sur la plage à côté de là où j'étais, il y avait la compagnie créole qui faisait un concert.
Ok. Ok.
Ok, guys. Donc. Imagine ma hype.
Bien sûr.
Dingue.
Chausse tes chaussures et c'est parti.
Mais
quoi.
On était avec mon mec, on était comme des fous. On y va et qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils nous font le Douanier Rosso et tous les tubes. Ils nous le font en un medley.
Ok.
Et ils jouent tous leurs nouveaux morceaux qu'on a. Pardon.
Ouais. On s'en fout.
C'est pas le. On n'est pas venu pour ça.
Ouais.
Et du coup, ils nous font tous leurs tubes qu'on adore, déteste, adore.
En 4 minutes.
Mais qu'on connaît par cœur. Et ouais, en 4 minutes, ils nous le font tous. On s'est regardé comme ça. On était dégoûté. Donc,
on veut les versions longues.
On veut les versions entières du Douanier Rosso, s'il vous plaît. Ouais. Donc,
le bal masqué aussi.
À qui le dis-tu?
Ouais.
Donc moi, j'aurais voulu te raconter que j'ai vu le bal masqué vraiment,
ouais,
par les vrais interprètes de l'époque. J'ai pas. Donc, j'ai chanté Mortel toute ma vie, si on m'invite encore à la jouer. Donc je...
Ouais, donc c'est vraiment par... pour donner aux gens ce qu'ils veulent vraiment, quoi.
Bon, non, pour le partager ensemble. Parce,
ouais,
que,
parce que tu sais que des gens s'attendent à ce que tu joues, donc tu...
Oui, parce que ça fonctionne bien, et puis que, en vrai, j'aime bien jouer. Tu vois, hier, ouais, j'étais moi-même surprise. En ce moment, je suis en train d'écrire un tout nouveau disque, donc je suis très, très loin de tout ça.
Ouais.
Et puis, au moment où j'ai joué, bah, c'était chouette. Même moi, j'ai pris du plaisir à le faire, donc, ouais, tant que tu prends du plaisir à le faire. Si un artiste le fait plus, tu vois, comme la compagnie Kral, ils ont leur raison. Mmh. Et ils voudront plus le faire. Mais bon, voilà.
On avait reçu dans ce podcast Robin Note, qui est pianiste et qui bosse, ouais, avec Ben Mazuet, notamment, qui fait toutes les tournées de Ben Mazuet. et qui nous disait qu'il avait une approche de son métier aussi comme presque comme un boulanger, à savoir qu'il a aussi un devoir entre guillemets vis-à-vis du public, qu'il a un truc à apporter, il doit travailler en amont, etc. Ça doit être carré, chaque soir doit être réussi. Alors en ayant conscience que ça reste de l'humain, etc. On a plus la forme parfois qu'à d'autres moments, etc. Mais essayer de ouais de remplir pas un cahier des charges, mais tu vois d'être à la hauteur à chaque soir par rapport au public. Est-ce que toi, tu as une approche similaire par rapport au morceau, de te dire « Mortel, le public l'attend, il faut que je le joue » ou bah, « Après tout, si à un moment, j'ai plus envie de le jouer, le public comprendra ».
Moi, je suis une femme très inconstante. Ouais. C'est-à-dire que d'une interview à l'autre, j'aurais pas la même voix, j'aurais pas le même mood. Vraiment, ouais. je varie beaucoup, beaucoup. Donc aujourd'hui, je te dis oui parce que je sors d'un truc comme hier, cette date qui... Je n'étais pas à fond. Et puis en fait, j'ai passé un extrêmement bon moment. Donc aujourd'hui, je te dis que oui. Ouais. Et puis demain, je vous dis non. En fait, j'ai dit de la merde. C'est très drôle d'ailleurs que quand on fait les interviews, on te dit « Ah non, dans telle interview, vous avez dit si, ça, ça. »
Ah bon, j'ai dit ça.
Ah bon ?
J'ai dit ça, moi.
Et puis des fois, t'es pas en accord avec toi-même. Mais ça, je pense que c'est l'autre chacun. C'est pas forcément un truc de musicien.
Tu penses que t'as une voix différente aujourd'hui que ce qu'on entend sur Mortel ? Ou c'est juste que tu chantes de manière différente mais...
Je pense qu'on chante de manière différente. Après, ouais. On vieillit. Ouais. Vous, les hommes, vous muez de manière assez radicale dans des âges pubères. Nous, pas. Par contre, on a une voix qui va vachement évoluer. Tu vois, les derniers albums de Mylène Farmer, elle chantait très, très... Ouais, elle peut plus chanter comme ça. D'ailleurs, ouais. Elle cherche pas à tricher. Maintenant, elle chante avec sa voix qu'elle a maintenant en tant que femme de presque 60 ans. Ouais. Et c'est très bien. Donc, nos voix changent. Nos émotions changent. Nos façons aussi d'apprivoiser le... On parlait d'outils tout à l'heure. Ouais. Tu vois, GarageBand. Si j'avais un micro comme ça pour enregistrer ma musique et pas le micro d'iPad, eh bien peut-être que je chanterais différemment. L'iPad, il fallait trouver une certaine manière, une certaine inclinaison, ouais. Pour chanter d'une certaine manière. Donc chanter très peu fort. Ouais. Quand j'étais en un groupe de punk, j'étais avec mon batteur là, il tapait tellement fort que j'étais même je mettais mon et micro à fond, il fallait que j'hurle. Ouais. Et du coup, je suis devenue une chanteuse hurleuse. Il y a un truc un peu... Non, mais si, je gueule. Hein. Ah ben, je gueule. C'est pour ça que quand on fait des live sessions, les mecs, je leur dis, non, faites pas à la française, mixez-moi en sous-mix. Ouais. Tu vois, très un peu The Journey ou Supertramp.
Moi, je pensais que c'était plus sur une recherche esthétique que tu préférais ça. Non, c'est aussi par rapport à ta voix.
Il y a la contrainte. Il y a la contrainte technique. Et puis, des fois, c'est... moi, j'aime bien gueuler quand je chante. Mmh. Alors, du coup, il faut que je sois loin du micro. Ouais. Les ingés sont détestent. Et coucou. Et puis surtout, j'aime bien que ce soit sous-mixé, par contre. Parce que si tu gueules et que tu mixes trop fort, bah, c'est un sup. C'est juste une femme qui crie, quoi. Donc, non. C'est non. Donc, c'est un truc un peu... Oui, c'est esthétique et c'est aussi la contrainte. Et les voix, elles changent. Mais je trouve ça bien, quoi. C'est un truc que je répète souvent en interview, mais on parle pas de la même manière à son amoureux qu'on parle à son boss ou au mec dans la rue, tu vois. Ouais. Donc, trouver sa voix, je trouve ça un peu un leurre, quoi. C'est juste garder un personnage. Ceux qui trouvent leur voix gardent un personnage. Et je les admire d'ailleurs, une constance. Moi, je suis très inconstante.
D'un projet à l'autre, ça peut changer radicalement. Quoi.
Je suis pas du tout digne de confiance.
C'était déjà le cas sur le premier EP. Tu penses qu'on peut s'écouter un extrait où tu penses avoir une voix différente ou
Après, on pense toujours qu'on fait des choses différentes. Tu vois, moi, j'ai fait un deuxième disque. J'ai dit, attends, mais je suis parti dans des trucs totalement différents. Oui, oui, bon. Oui, bien sûr. Oui, t'as mis plus de guitare.
C'est vrai qu'il y a plus de guitare sur l'album.
Et pour moi, j'avais fait un truc totalement road song, rien à voir. C'est pas du tout 80s. Mon producteur m'a dit oui. Ouais. C'est super.
Tu parles avec les yeux par rapport à Ta Merci.
Oui, oui.
Ou d'ailleurs, ça peut être sur À Ta Merci 2017, hein, qui arrive donc 2 ans après l'EP. T'as un morceau où ta voix serait différente, que t'apprécies, dont on pourrait s'écouter un extrait?
Bah ouais, en tout cas, il y a des explorations. Je sais pas, un morceau qui s'appelle Un beau langage. Ouais. Qui était assez doux. Assez balade, voilà.
Eh bah écoute, on s'écoute un extrait. Un beau langage, Fishback.
C'est très instruit au début.
Et elle dit ça sans écouter, hein. Elle a même pas le casque.
Ouais.
Elle sait chaque seconde.
Pas, bah oui. J'écoute à l'aveugle.
J'avance un petit peu, alors on fait l'instru. Ah bah oui.
Ouais.
Ah oui.
Et c'est très drôle parce que même en live, j'achète encore plus doucement que ça, beaucoup plus jazzy, quoi, n'importe quoi. Mais ouais, c'est le morceau qui s'y prête, quoi.
Est-ce qu'il y a des espèces de... Avec le recul entre guillemets, ta carrière est pas si ancienne, mais mine de rien, j'imagine que tu peux voir quand même des espèces d'étapes, des jalons, à travers tes morceaux, j'entends. Des morceaux qui ont été importants, que ce soit pour toi ou vis-à-vis du public, le succès rencontré. On a commencé avec Mortel, qui est un tube, entre guillemets. Derrière, à ton avis, c'est quoi un peu ces grandes étapes musicales?
Ah, c'est une vraie question, ça, mais auquel je ne sais pas encore répondre, je t'avoue. Parce que tu as raison, et moi j'ai l'impression d'avoir fait ça depuis très longtemps, et en fait, non, c'est assez jeune. Les étapes, quand on est dedans, on ne les voit pas, tu vois. C'est comme quand on a un petit chien qu'on a depuis qu'il est tout bébé, on ne voit pas grandir. Je suis désolée, pourquoi je parle de mon chien?
Ouais, vas-y.
Mais comme une plante, tu vois. Là, j'ai mon rosier qui est en train de pousser, et ma mère qui est pas venue depuis une semaine m'a dit, ah, mais les fleurs ont déjà, enfin, les bourgeons ont déjà popé. Moi, j'ai pas vu parce que je les vois tous les jours, les bourgeons. Et donc, je suis très mal placée pour y répondre. Ça, je pense que c'est les gens qui écoutent la musique et qui l'aiment ou la détestent qui en parlent le mieux.
Alors, pour le prendre d'une autre manière, sur À ta merci, est-ce qu'il y a un morceau dont t'es particulièrement fier?
Bah, tous, hein.
Tous.
Je les assume tous. Ouais. D'autres que j'aime moins parce que ça fait référence à des histoires que j'ai digérées depuis un bail. Mais je crois que...
Parce que Mortel, on le retrouve sur l'album qui était sur l'EP, mais il y a beaucoup d'autres morceaux.
Ouais, avec À ta merci, je crois que ça doit être Invisible des intégrations de l'univers.
Ok.
Parce que c'est un morceau très spécial que mon label ne voulait pas du tout mettre en avant.
Ok.
Et aujourd'hui, on a dans le nouveau live qu'on fait, on a trouvé une version encore plus psychée de le faire. Et en fait, ça devient un des moments les plus fous du live. Et c'est un morceau qui est hors code, qui est hors... structure, chanson, couplet, refrain, et un grand espace de liberté, ouais. Ça, j'en suis fier.
Allez, on s'écoute un extrait.
Ça dure une plombe. Ça dure une plombe. C'est un morceau expérimental avec un thème que j'ai composé quand j'étais guide au château de Vincennes et que je gardais la Sainte-Chapelle. Et la Sainte-Chapelle, en fait, elle avait un truc incroyable, c'était qu'elle avait une réverbe de 13 secondes. C'est-à-dire que tu fais A, et pendant 13 secondes, ton A, il résonne. C'est-à-dire que tu ne peux pas superposer des sons sans qu'il se bouffe la gueule.
Okay.
Et donc, il fallait que je fasse des accords. J'y connais rien en technique, je suis désolée, les techniciens qui me regardent. Mais il fallait que je fasse des accords qui puissent se manger les uns les autres.
Okay.
Et donc, j'ai composé dans cette chapelle.
Okay. Et... au niveau harmonique, que ça colle, quoi.
C'est-à-dire que si par exemple, tu fais... Que les doigts, elles puissent se superposer et faire un accord cohérent dans la longueur. 13 secondes, c'est hyper long.
Ok, allez, on écoute ça.
Ecclésiastique.
C'est vrai, mais tu parlais de la Sainte-Chapelle, c'est maintenant.
Ouais, tu sais qu'à l'époque, il y avait des accords. Comment s'appelle-t-il? Il y a un nom. Attends, ça commence par un T. Il y a des accords et des notes qu'on pouvait pas faire, qui étaient interdites par l'Église sur cette bûche.
Ah, le triton? Non.
Voilà.
Ouais.
Le triton.
Ouais.
Eh ben, très intéressant.
Effectivement.
Ouais.
Ok. Alors, tu parlais de ton label qui, sur ce morceau-là, voulait pas le mettre en avant. Est-ce que toi, quand tu composes, t'as cette condition de l'acceptation potentielle de ton label et qui ça guide un petit peu ta créativité, ou t'y vas et puis on verra après, quoi?
C'est le label, souvent tu lui envoies 48 maquettes et on en garde 12.
Ouais.
Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu, sur le dernier disque, c'était un autre morceau qui s'appelait La Food, il y a toujours un morceau qu'ils veulent pas mettre et toi tu te dis si. Parce que c'est aussi ma... Si on met que des morceaux très pop song, parce que eux, ils veulent que ça, vois, ils voudraient que tout passe en radio et tout ça. Si on met que des pop songs comme ça, où est un peu la folie et la virgule dans cet album pour que tu puisses avoir un album digeste sans avoir une impression d'enchaîner des trucs formatés.
Des trucs de playlist, en fait.
Attention, et j'aime beaucoup, moi, les chansons, coupe les refrains avec un petit bon qui va bien et un double refrain à la fin, tu vois. Mais...
pas que ça, quoi.
C'est un espace de liberté. Et puis, si un jour, j'ai envie de prendre la tangente et de faire un album d'expérimental ambiante chelouche, j'aurais déjà posé des galons, quoi. Ce sera pas une surprise, genre et une lubie, quoi. C'est déjà en moi, j'aime cette musique-là. J'aime Magma. J'aime des Tangerine Dream. J'aime ces gens qui font des choses... hors format total.
Ouais, un peu foutraque, mais...
Vangelis, c'est la musique de film aussi. Ouais. C'est ma grande passion dans la vie, la musique de film. Vangelis tous les jours.
Bien sûr. Les chariots de feu. Hein.
Alors, tu cites le truc le plus connu et qui est devenu presque un mime. Mais la carrière de
Vangelis. Non, mais Blade Runner,
écoutez le singe
ça,
bleu. Écoutez le singe bleu, Blade Runner, a tombé par terre.
Bah oui. On aime beaucoup Monsieur Papatanasiou ici.
Bon, c'est trop bien, Vangelis.
C'est vrai qu'il avait une carrière aussi avant de faire Vangelis. Il avait un espèce de groupe, c'était les Beatles grecs.
Oui, ouais. Absolument.
Tu ris.
Mais j'invite d'ailleurs les gens à regarder une petite série que j'ai faite sur la musique de film. Allez. Sur Monte-le-Son. Et il y a 4 ou 5 épisodes même où je reviens un peu sur l'histoire de la musique de film, les spécificités, etc.
Mais oui, je l'ai vu. Mais ouais. Elle est super, cette série. Mathé là.
Merci, merci.
Cette série est géniale. J'adore les vidéos de Salman. Mais... top. Regardez-les.
Putain, je vais garder ce. On va faire une capsule avec ça.
Mais c'est vrai.
Sur.
Donc, attends, juste.
Ouais, vas-y. Pardon.
Donc, tu parlais de 48 morceaux pour en retenir que 12. C'est le ratio habituel sur tes projets ou autant alors, de chutes? Est-ce que.
Oui, bon, c'est 48 morceaux qui sont pas non plus tous géniaux non plus. Enfin, faut pas d'accord. Non plus en. Mais il y a beaucoup de bouts de trucs.
Ouais.
Ou alors, des fois, des morceaux qui sont un tiroir, des morceaux où tu vois un 5 minutes de morceau, et en fait, dans le morceau, ils disent, mais il y a déjà 4 morceaux bien dedans. Viens, on les retravaille, etc.
D'accord.
Mais
à quel, enfin moi c'est un truc qui m'intéresse, c'est savoir à quel moment du processus créatif intervient le, on va pas parler forcément du label, mais en tout cas des avis extérieurs par rapport à, parce que toi tu fais tout toute seule, t'es très, tu maquettes toi-même machin etc. Donc à partir de quel moment tu juges que là c'est le moment d'avoir les avis des autres par rapport à ce que toi tu ressens ou ce que t'as envie de faire et de
c'est
te dire.
C'est très dur.
C'est dur. Hein
en vrai, c'est... Ouais. Là par exemple je suis en plein dedans.
D'accord.
Je suis en plein dedans.
Et tu sépares vraiment les parties ou c'est un espèce de flow, un flux continu ou envoi retour puis tu bosses sur autre chose.
Ça dépend. En fait, il y a des fois des soirs où pendant des mois ils me demandent des trucs et j'en vois rien puis un soir je pète un câble et je leur envoie tout d'un coup et puis
démerdez-vous maintenant.
Et puis surtout en disant oui non mais c'est pas fini. Ils s'en foutent que ce soit pas fini. Ce qui compte c'est est-ce que l'idée de base est bonne et qu'est-ce qu'on va pouvoir pousser.
Ouais.
Ça c'est le plus important. Et là, je suis en plein dedans, quoi. Ou j'ose pas, parce que je me dis, voilà, c'est pas fini. Mais en fait, le plus important... Et surtout, j'ai un producteur le plus bienveillant qui soit et qui a toujours des très bons avis, quoi. Là-dessus, ça fait des années qu'on bosse ensemble et qu'il est bon, quoi. Il est bon. Il me pousse toujours vers le bon, donc j'ai la chance de l'avoir. Donc là, oui, dans 2 mois, là, faut que je délivre. Là, j'ai envoyé 4 morceaux. J'en suis assez fier.
Okay. Enfin,
je les aime. Je les ai... travailler avec beaucoup de cœur.
Est-ce que potentiellement ils peuvent te dire sur les 4, ouais, en fait, on n'en retient qu'un seul parce que...
Bah, oui, il a le droit. Et à la fois, c'est quand même moi qui fais un disque.
Ouais, bah oui, mais c'est intéressant.
Donc là-dessus, j'ai toujours eu beaucoup de chance d'avoir des gens qui m'ont suivi. Tu vois, là, j'ai eu ce morceau-là invisible sur le premier album, La Foudre sur le deuxième, et ils voulaient pas... Mais j'insiste,
ouais,
3 minutes et demie, et ils le font parce que à côté de ça, il y a d'autres morceaux qui rentreront dans les cases et ils savent que je crois que les gens de plus en plus ils captent qu'un artiste a besoin de s'épanouir et de on est une génération tu sais un peu avec le fameux syndrome de De Vinci de vouloir faire un peu de tout, de toucher un petit peu à tout et c'est juste de pas se fermer des portes quoi. Ouais. Ça c'est cool.
Bah c'est chouette si effectivement t'as un staff après derrière qui comprend ça et parce que tu peux avoir des gens qui en fait ont pas capté qui tu étais ou ce que tu étais ou
ça serait dommage parce que aussi le staff il a compris quel public j'avais et moi j'ai que des gens comme je l'ai dit j'ai des gens de traviole. Mon public c'est des gens en diagonale quoi. C'est des gens étranges avec un j'ai pas un profil type. Ça va vraiment de 15 à 60 ans les gens, c'est très étrange, des riches, des pauvres. Toutes cultures confondues et mais c'est quand même des gens un peu chelouts. Ils aiment bien aller explorer l'étrange dans leur vie, un peu dans. C'est pas du fantastique, c'est du surréalisme. C'est-à-dire que il y a la réalité et une touche de Lynch a ça, tu vois, dans ses films.
Ouais.
C'est du réel et puis d'un coup.
Ça part en.
Il y a un truc étrange.
Ouais.
Eh bien, mon public a ça, j'ai ça et donc. Mon label me fait confiance aussi parce que c'est ça qui nous relie tous, quoi.
Ouais. Étrange, mais pas dérangeant, parce que Lynch, c'est un peu dérangeant.
Ah, mais moi, j'aime bien être dérangé, moi.
Ouais.
Ouais, j'aime bien qu'on vienne me
déranger
faire un
ou déranger.
Moi, en tant que musicienne et auditrice ou spectatrice, j'aime bien qu'on vienne me poser la question du pourquoi. J'aime bien pourquoi est-ce que ce voyeurisme, ce vice m'intrigue. Me remettre en question là-dedans, ouais, je trouve ça bien. Quoi.
Ça veut dire que tu arrives aussi à être dans le lâcher-prise quand tu collabores avec des gens sur l'écriture, par exemple. Tu arrives à accepter que l'autre y mette sa patte. C'est pas toujours évident.
Au contraire.
Mais... Ouais.
Ah, au contraire. Par contre, je suis très... je sais tout à fait où je vais. Quand je suis en studio avec des réalisateurs, des musiciens, etc., je laisse beaucoup de place. Là, j'ai une nouvelle musicienne, Emma, qui joue dans le groupe Bagarre aussi, qui est top, et qui nous rejoint. Et en fait, Emma, là, elle rejoint l'équipe musicien, et elle remplace un mec qui était un super producteur, tu vois, vraiment dans la prod. Et elle, c'est une super chanteuse. Donc, en fait, Je veux pas qu'elle fasse ce que faisait le mec avant en prenant son rôle. Au contraire, je veux qu'elle ramène ce qu'elle donne. Par contre, si ça me plaît pas ou ça me plaît, je la pousse et je suis très claire. Parce que je dirige le truc, quoi. Ça, c'est vraiment mon truc. Je suis la direction artistique, je la maîtrise, mais les gens ont du talent. Les gens graves de talent, et sans le talent des autres, j'aurais pas le mien, donc.
Ouais. Je dis une bêtise, ou dans ton processus créatif, là où tu t'appuies le plus sur les autres, c'est dans l'écriture?
Oui, parce qu'il y avait une grande timidité d'écrire en français. C'est très dur d'écrire en français.
Justement.
Hein, on est tous complexés.
Pourquoi ce choix du français? En plus, si t'as une culture rock, punk à l'origine, c'est pas forcément naturel de se tourner vers le français?
Non, c'est pas facile parce que c'est une langue qui est très chantante, même si on n'entend pas la chanson de notre propre langue. Il y a quand même une mélodie. Mais il y a eu tellement de grands poètes, ou de, tu vois, aussi on parle des rappeurs, des mecs qui maîtrisent super bien la langue, que là tu te dis, waouh, c'est très délicat. Donc j'avais pas confiance en moi. Hein, c'est juste un problème de confiance en soi d'avoir aussi collaboré avec d'autres gens. Et puis, la chanson n'est pas la poésie.
Ouais.
La mélodie, le rapport note-mot, change tout. C'est-à-dire que tu peux dire une phrase très bête.
Mais très belle.
Mais si tu accompagnes la musicalité de la syllabe, de la voyelle presque ensemble, ça c'est cool. Et ça, j'aime bien l'exercice. Puis je te dis, les gens ont du talent, quoi. Souvent, on est... Quand un pote nous raconte ses déboires, on lui donne des conseils de malade. Attends, tu devrais faire ça. Écoute, tu écris pas pendant 3 jours, tu vas voir, t'as là tout. Que tu sais pas toi-même appliquer. Mm-hmm. Donc le fait de raconter des histoires à des auteurs et qui eux me retranscrivent ça, je trouve ça merveilleux. Ils disent ça mieux que moi.
C'est intimement lié au chant, le texte. Est-ce que tu pourrais chanter de la même manière si c'était pas ces textes-là, etc. Est-ce que tu les mêles? Tu vois, on a bien compris que la voix c'est essentiel pour toi. Est-ce que tu pourrais presque chanter n'importe quoi, ou est-ce que le texte change aussi ta manière et ton approche de la voix, tu vois?
Les deux. Et c'est très drôle ce dont tu parles, parce que je suis en plein dans ce processus-là. Ouais. Des fois, j'avais un texte sous les yeux, et souvent, d'ailleurs, quand je reçois un texte, j'attends d'être devant un micro pour faire une version à chaud. Mmh. Tu vois, genre le chanter très vite pour la première impression qu'il me donne enregistrée, c'est souvent celle qu'on garde. Et là, à l'inverse, en ce moment, je cherchais à écrire. Donc, tu sais, je me pose à une table, je cherche à écrire un truc. Ça vient pas. Classique. Et puis d'un coup, genre, j'ai juste mon instru et je chante des bêtises. Ce qui me passe par la tête, je le chante.
Ouais.
Donc là, je chante des trucs un peu banals, quoi. Et ben en ce moment, je trouve ça super.
Ok.
Et donc après, tu travailles là-dessus, ou tu te dis
c'est, tu le gardes tel que quel. Je garde, en fait,
Non, tu le gardes pas tel quel. Donc il y a une base, quoi. Là j'ai fait une super instru que j'ai fait avec un artiste australien qui s'appelle Kirin J. Kalinan et mon ami Chase, qui est new-yorkaise. On s'est retrouvés en France. On a fait des super morceaux instrumentaux. C'est vraiment instrumentaux. Et c'est vraiment de la musique de film 80. Enfin, c'est sublime ce qu'on a fait ensemble. Il fallait que je trouve des textes. J'ai commencé à écrire des trucs. C'était un peu de la merde. Et puis, un soir, il y a quelques jours, quelques semaines, là, je me suis mis à chanter ce que j'avais. J'avais un sentiment très fort dans ma vie perso. Et j'ai juste dit ça sur cette musique-là.
Et ça marche.
C'est trop bien. Donc je vais bien sûr peaufiner.
Ouais.
Mais c'est ça. J'ai juste un sentiment à donner, et puis c'est beau, ça.
Puis surtout, on voit qu'il y a plusieurs approches, en fait,
possibles. Ouais,
j'imagine que ça nourrit, en fait, artistiquement, que de pas toujours.
Je crois que je connais personne qui ait une méthode.
Mmh.
Tous les artistes diront, cette fameuse question, alors vous commencez avec le texte ou avec la musique? Ça dépend, ma poule. Non, ça dépend du truc, du contexte. Est-ce qu'il y a une collab? Est-ce que c'est solo? Est-ce que je suis triste? Est-ce que j'aime? Est-ce que les deux en même temps?
Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quand même un truc plus fondamental qui dépend de chacun, qui est du rapport dans la musique? Certains sont plus attachés au texte, par exemple, que d'autres. Moi, j'ai une approche approche de la musique où c'est avant tout, le texte est secondaire. La voix même presque. Et secondaire, ça veut pas dire que je peux pas apprécier de grands textes, de grandes voix, etc. Mais très clairement, moi, la musique, mon rapport, c'est un truc de...
C'est la mélodie,
etc. Ouais. C'est pas ce que ça raconte.
T'es américain, quoi.
C'est secondaire pour moi.
Je suis un peu dans ta team.
Ouais. Est-ce que ça change, tu penses, la façon ensuite dont on fait sa propre musique, évidemment?
Non, c'est parce que je pense que tout le monde est sensible. On est toujours sensible à un beau texte, on est toujours sensible à une belle musique. Et c'est nous, en tant que musiciens, soit on vient du texte, soit on vient pas du texte. Il y a des gens, je sais plus, c'est pas Albin de la Simone que j'ai entendu parler de ça, je sais plus qui. Un mec était un musicien et qui pouvait pas composer de la musique et écrire un texte après, parce qu'en fait, il est tellement musicien que c'est impossible pour lui d'être dans ce processus-là. Et en fait, c'est un gros chanteur à texte français aujourd'hui, tu vois. Et donc il s'est mis à écrire des textes et il a fait la musique ensuite. Tellement pour lui le rapport de musique est plus important. Ouais. Alors que c'est un chanteur à texte. Donc c'est, on a tous un rapport méga différent à ça. Mais moi, je suis très à l'américaine, voix dans, ou à l'anglaise, voix en sous-mix et des voix. Christophe, pour moi, le Christophe, le chanteur français, est d'un des plus anglo-saxons qui soit pour ça. On comprend rien quand il parle. Je comprends pas, il est pas intelligible. C'est sa grande force. C'est pour moi un des plus grands chanteurs français, Christophe. Parce que les mots sont là. Tout est dans la musique, quoi. Tout est dans la voix.
Il y a un dernier point avant qu'on passe à la deuxième partie, pour parler un petit peu des testiques années 80. On a commencé à le voir un peu à travers tes morceaux, à quoi ça ressemblait. C'est l'aspect plus scénique. Et le fait, alors je ne sais pas comment l'aborder, mais quand on est artiste, il est courant de créer une forme de personnage public. Un personnage, j'imagine, qui ressemble un peu à l'artiste initialement, mais qui est aussi travaillé en réalité, qui est aussi ce qu'on veut offrir aux autres. Et il y a d'autres trucs qu'on garde pour soi. Toi, je trouve, par exemple, et c'est pas ultra courant chez les artistes français, il y a une vraie recherche de mise en scène aussi du personnage, de création d'un personnage, à travers le corps, à travers les mouvements, etc. Je trouve, en tout cas. Tu vas me dire si t'es d'accord avec ça. Est-ce que c'est un truc que tu fais consciemment? Est-ce que c'est pas le cas? Je parle aussi bien que ça soit dans des interventions publiques, médiatiques, que sur scène en concert, par exemple, tu vois.
Bah, c'est drôle parce que tu parlais de travail. Ouais. Et je crois qu'il faudrait travailler ça. Moi, je l'ai pas vraiment travaillé. J'ai pas en tout cas le sentiment de le travailler. Mais j'aimais bien l'idée de sophistiquer les choses existantes. Donc, c'est, oui, c'est effectivement une part de moi, mais que je pousse dans certains travers. Et l'aspect scénique, très expressionniste. Moi, je suis très, trop, hein, j'en fais trop.
Ouais, mais c'est ce qui fait aussi
le
charme.
Vous carlez bien, mais vous carlez trop.
C'est de la gestuelle, etc. Je joue énormément, en fait.
Ouais, aussi. Et c'est pour cacher une forme de timidité, parce qu'il faut occuper l'espace. Et d'ailleurs, je trouve que je gigotais trop, par exemple. Ouais. Les gestes intempestifs, on en a tous. Je mets un chapeau pour pas passer la main dans les cheveux. Enfin, c'est des trucs. Donc, peut-être que c'est du travail inconscient. Je suis heureuse de porter ce chapeau, si tu veux. C'est des petits détails comme ça. Je sais pas si c'est du travail, mais c'est assez jouissif, quoi. De d'amener la musique qui est intime, qui est dans le studio, pas studieuse, dans un truc très vivant. C'est plus un exercice qu'un travail, je dirais. Tu vois. C'est une gym, quoi. C'est un. Puis c'est les gens aussi, hein.
Les gens, ils vont
dans le concert, et plus ils dansent, et plus t'as envie de danser, et qu'on danse ensemble, ouais, donc c'est...
Mais c'est quelque chose qui, du coup, t'y penses même pas quand tu composes, ou, tu sais, comment ça pourrait rendre sur scène, ou, tiens, à ce moment-là, je pourrais faire un truc comme ci, comme
ça. Une scénographie presque en tête.
Tu sais quoi, ça, c'est une vraie connerie que j'ai. Parce que je pense pas du tout à la scène quand je compose. Mmh. Et c'est bête parce que, du coup, je me retrouve des fois devant des... Alors, en fait, dans ce morceau-là, il y a 5 pianos, 14 guitares, il y a des violons. Comment on fait?
C'est cool comme défi aussi, j'imagine.
Ouais,
ouais, c'est dur. Ouais. Et donc, mais l'électro, la musique plus techno et électro que j'essaye en ce moment, là, s'y prête plus. Parce que là, je me dis, ah oui, là, ça pourrait être marrant.
Ouais.
Mais c'est très récent. Je me dis, tiens, il faudrait aussi... Alors, peut-être on peut segmenter en deux parties. On fait des disques très propres et très produits. Pour que ça reste un disque. Évidemment, on fait des trucs plus live, soit plus punk, plus rock, ou plus techno, parce que c'est vraiment mon dada, pour le live. Mais j'ai jamais pensé au live au moment de la compo.
Ouais.
Mais c'est un truc que je me demande en ce moment, parce que, franchement, réarranger le morceau pour le live, c'est rude. C'est dur, quoi.
Est-ce qu'il y a des moments où tu te reconnais pas, lorsque t'es dans tes habits d'artiste, entre guillemets, ou ça te presque tu pourrais dire que ça te dessert un peu d'être dans un personnage, que ça manque d'authenticité, que je sais pas, est-ce que ça peut t'arriver ça ou pas?
Ouais, bien souvent.
Ouais.
Ça arrive très très souvent, mais c'est normal parce que ça fait un peu partie du truc, on revient aux chansons d'avant, tu sais, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai, mais qui j'étais, pourquoi j'ai dit ça, n'importe quoi. Donc oui, mais plus ça va et plus faut s'accepter et se dire que bah c'était une époque, quoi. C'était une époque, mais oui, les choses qui nous desservent, forcément. Je me souviens d'un mec sorti de scène. Moi, j'adore aller voir les gens à la fin des concerts, parce que je me dis, putain, il y en a qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir te voir, et ils voudraient juste prendre une photo ou avoir dédicacé un disque. Moi, chose que j'ai jamais fait en tant que fan, mais bon, eux, ça leur fait plaisir, tu vois, c'est tendre, c'est hyper tendre, quoi. Et il y a un mec qui m'a dit, vous devriez être plus mystérieuse.
Les injonctions, let's go.
Vous devriez être plus mystérieuse. Parce
bizarre,
que ma musique,
en plus, qu'est-ce que ça veut dire.
Ouais, ça ne veut rien dire, parce que c'est pas parce que je suis généreuse et avenante que je garde pas ma part de mystère et ma vie intime. Donc, personne ne peut être Mylène Farmer aujourd'hui.
Oui, voilà, c'est ça, en fait.
Et j'ai trouvé ça fou, déjà, qu'un homme vienne te dire ce que tu dois faire en tant que femme.
Oui, ça, c'est classique shit, hein, bien
classique
sûr.
Classique shit.
Ouais.
Mais c'est vrai que je me dis, bah ouais, c'est un métier. Moi, j'aurais jamais ça, en tout cas, de calculer qui je dois être en public, ouais, etc. Tant pis, au pire, on se dira, oh là là, elle est trop comme ça, elle est trop alcoolique, elle parle trop. Je m'en fous.
Et tu le ressens vraiment, des fois, le fait que peut-être des gens te voient pour ce que toi, t'es pas ou tu ressens pas, tu sembles pas être, en tout cas, de ton côté
Bien sûr, ouais.
Ouais.
Bah, le rapport à. En plus, il y a ce truc de la nostalgie du présent, tu sais, comme on a les réseaux. On photographie beaucoup tout ce qu'on fait, tout ça, on se regarde, on voit des souvenirs, on a des rewinds un peu. Tu ouais. sais, notre téléphone nous dit ce que t'as fait en 2022. Mmh,
ouais.
Et donc forcément, oui, tu te demandes, mais est-ce que c'est ça que j'ai envie d'être publiquement? Est-ce que c'est ça que j'ai envie d'être dans ma vie? Je pense qu'on a toujours une image de soi qui est faussée par rapport à ce qu'on est.
Mmh.
Et ça, qu'on soit musicien ou pas. Hein.
Ouais,
on a une
sûr.
Vision de soi. D'ailleurs, dans le miroir, on se voit à l'envers.
C'est vrai.
Oui, mais à l'inverse, enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais... Dans la vie, tu sais que tu ne peux pas maîtriser la perception des autres de ce que tu es.
C'est stoïcien.
En tant qu'artiste, tu peux avoir tu vois, l'envie de dire « Ah, peut-être que je suis plus en capacité, puisque je choisis aussi ce que j'offre aux autres. »
C'est une illusion.
Ouais.
Je crois que c'est une illusion. Après, oui, si, on peut donner au compte-gouttes des choses, et j'admire ceux qui le font. Mais moi, je n'ai pas cette compétence-là. C'est un talent. Je pense qu'il y a deux talents. Il y a le talent de musicien et le talent de vedette.
Ouais.
Moi, le talent de vedette, je ne crois pas l'avoir. Et puis, je n'ai pas ce truc d'apparaître en public comme il faut, de faire les bons trucs. Je m'en fous un peu, quoi. C'est pas très grave. Là-dessus, tu vois, on parlait de l'œuvre et l'artiste. Enfin, l'œuvre et l'artiste et la personne, la femme, en l'occurrence. De plus en plus, moi, il n'y a pas de frontières, quoi.
Ouais.
Et donc, bah, je suis bonne franquette et que je suis l'ardennaise un peu torturée sous la mansarde. Et bah, pareil avec vous, voilà, j'ai bu une bière, je me cache pas. J'aime bien boire des bières, ouais.
Ça peut pas avoir un aspect dangereux, dans le sens où, moi, je le prends à l'échelle de ce qu'on fait avec Das, par exemple. Alors, c'est pas la même vie, mais c'est aussi une forme de prestation publique. Et donc, ça veut dire être investi aussi par les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, etc., et qui projettent des choses sur toi, ou alors qui veulent avoir du lien avec toi, par exemple, etc. C'est pas toujours évident, ça, à gérer, et...
Pourquoi tu fais la diff entre le Salman hors caméra et le Salman en live?
Non, je pense qu'il y a une forme... Enfin, j'essaye d'être de l'authenticité dans mes formats, mais par contre, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, etc. Après, il y a des barrières. C'est que...
Ça,
bah ça, c'est normal.
Oui,
on a
ça,
tous...
oui.
Mais ça, c'est normal.
Mais c'est plus difficile. Enfin, je réagissais au fait que tu disais, bah, je suis de plus en plus naturel. Et en fait.
Mais ça t'empêche pas de mettre des barrières.
Non, mais c'est un équilibre ultra difficile. Parce que c'est plus simple, en fait, si ce n'est de jouer un rôle, en tout cas, d'imposer un personnage pour mettre de la. Et plus on est authentique, plus est-ce que ça ne pousse pas les gens aussi à nous investir et à se dire, j'ai envie d'être proche de cette
Alors,
personne.
Alors, ça, oui. Mais par contre, si j'ai pris aussi ce pli-là, c'est par expérience. Où au début, j'étais carrément comme ça, rideau.
Ouais.
Et en fait, ça m'a vachement bouffé parce qu'il y avait une grande dichotomie en fait entre la femme que j'étais et le personnage que les gens percevaient de moi, très froid, très dur, etc. Alors que mes proches savent que je suis pas ça. Et donc c'était là, ça devenait conflictuel. Puis surtout, j'adore les gens, j'aime bien moi les gens. Des fois, non. Des fois, ils vont trop loin.
Ouais.
Donc je leur dis ta gueule. Mais maintenant, ils savent. Donc c'est bien. On sait à quoi s'en tenir. Donc j'ai pas, c'est plus intrusif. Là où ça pouvait l'être fut un temps, maintenant les gens ils savent à quoi s'en tenir et ils viennent pas me chercher les noises. Donc c'est super. Et puis surtout, j'admire ça, mais je trouve ça très dur en fait d'être Mylène Farmer. Je trouve ça très dur.
Tu m'étonnes.
Dans une époque d'ailleurs qui prône justement la transparence.
Bah ouais, le fou avec les réseaux, les machins, il faut qu'on vous voit tout le temps.
Au-delà
en fait,
du
présent,
fait que, on peut choisir par contre de mettre en avant sa vie ou pas.
Mais ouais, mais
il y a toujours un truc de transparence, beaucoup d'interviews, beaucoup de trucs. Donc en fait, Ouais, c'est délicat. Je pense que c'est beaucoup plus dur.
Tu peux plus distribuer tes apparitions au compte-goutte, en fait. T'es tout le temps, tu vois, comme, je sais pas, tu prends un artiste comme Michael Jackson, qui était vraiment mystérieux, 100%. On se demandait s'il dormait pas dans un caisson hyperbare. Mm-hmm. Je veux dire, ses apparitions étaient des événements, tu vois.
C'est vrai.
Je pense que tu peux plus avoir ce genre de carrière aujourd'hui,
Le monde est tu peux, mais différent. c'est un grand, grand boulot. Et puis, s'isoler de cette manière-là, c'est un peu dur. Faut Moi, je me le souhaite pas, quoi.
Ouais, l'époque est plus propice à ça, je pense. C'est vraiment.
Après, on a des exemples comme PNL, par exemple, qui.
Oui, c'est différent.
Non, mais c'est, ça n'a rien à
voir. Et qu'on admire pour leur marketing.
Mais en tout cas, voilà, cette capacité à ne jamais apparaître en interview, etc., ne jamais jouer le jeu, en fait, d'une certaine manière.
Eux, c'est 100%. Oui. Tu vois, c'est même pas genre. Ils le font pas du tout, tu vois. C'est.
Tu sais quelle est la grande différence avec ces gens-là?
Vas-y.
C'est qu'eux, ils veulent réussir absolument.
Ouais.
Être star, c'est plus important que tout. Moi, le plus important de tout, c'est de réussir ma vie. Et ma vie, elle se réussit parce que je perds des gens parce qu'ils me trouvent du coup pas assez mystérieuse, un peu trop alcoolique, etc. C'est pas grave.
Bah non.
Ce qui compte, c'est ceux qui sont là.
Ceux qui restent, ils savent pourquoi.
Et qui savent pourquoi,
ouais.
À qui on triche pas. Et puis, moi, la musique, c'est génial ce qui m'arrive. Mais franchement, on discutait en off que j'étais serveuse avant. J'adorais ce métier. Et j'ai pas les dents assez longues. Pour faire que de la musique, ce soit absolument ce que je veux faire de ma vie, absolument, quoi.
Je veux
avoir une vie heureuse, ouais, c'est tout.
Tu n'as pas de plan, en fait.
Ah bah non.
Si ça s'arrête, ça s'arrête.
J'ai eu de la chance, j'ai pas galéré, hein, contrairement à tellement de musiciens qui triment pendant des années pour se faire écouter. Moi, c'est injuste et j'ai sorti deux morceaux, j'ai signé. Enfin, c'est injuste, c'est vraiment injuste.
Ouais, mais ça fait partie de la musique.
Et j'embrasse mon métier. Chaque jour, je dis que c'est une chance. Mais par contre, je sacrifierais pas ma santé et mes amours et mes amitiés et ma façon d'être pour ça. Non, j'ai pas assez d'ambition pour ça. Même si j'ai de l'ambition, attention. Mon ambition est purement mélodique.
On reparlera des aspects un peu carrière-industrie. Mais juste avant de passer à cette toute dernière partie, on se fait un petit focus sur l'esthétique
années
80.
Il y tient.
Je sais que qu'on en a discuté un peu avant l'émission, t'étais pas embêté, mais en tout cas t'as l'impression qu'on a beaucoup déjà discuté le fait qu'on renvoie ta musique à l'esthétique années 80,
obligé,
etc.
Ouais.
C'est ça tient à quoi? Ça tient à comment tu sonnes, à tes références? Tu donnes même pas tant de références. C'est plutôt en général on te dit ah ça ressemble à ça, mais toi il me semble pas que t'aies publiquement dit mes modèles c'est ça.
Non, mais d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de modèles.
Ouais.
C'est quand on te demande. C'est normal quand tu fais tes premières interviews que les gens ont besoin de se situer, de parler, de Ringer, de Balavoine et de tous les Français de ces époques-là. Mais non, parce que à côté de ça, moi, je suis à fond sur Alan Parsons Project en ce moment, enfin depuis des années, alors que ça ne se ressent pas forcément dans ma musique.
Ouais.
Et quoi qu'un peu dans les mélodies, dans les trucs. Oui, les 80s, ben voilà, il y a ce faux procès de « oh là, c'est un revival ». Oui, effectivement, ça fait 20 ans qu'on réutilise les mêmes synthés.
Ouais.
Moi, je pense que on arrête, en fait. Les basses arpégiées, ben, ça fait danser. Le charlet en l'air, ça fait danser. Beaucoup de reverb, c'est cool, c'est fun. On fait des effets, on met des onomatopées à la fin des refrains. Ouhou, on s'éclate, quoi. Donc, en fait, les années 80... On fait pas de la musique des années 80, on fait de la musique un petit peu audacieuse. On fait de la musique un petit peu avec des choix. Moi, j'ai des souvenirs avec mon ingé son en studio. On se disait pas qu'on faisait un truc 80. On se disait qu'on faisait un truc un petit peu rigolo.
Ouais.
Avec beaucoup de dérision quoi, dans la musique. Quoi.
Tu sais quoi, juste avant de continuer de cette discussion, on s'écoute peut-être d'autres extraits de trucs que tu as fait. Parce qu'on a encore rien écouté, par exemple, du dernier album, Avec les yeux. Est-ce que justement, sur Avec les yeux, il y a, allez, disons, deux morceaux. On peut s'écouter deux extraits, deux morceaux que tu aimerais écouter là, tout de suite?
Je sais pas.
Bah, tu sais quoi, le temps que tu réfléchisses, parce que on l'a pas mis, et c'est quand même probablement le tube du précédent album, à ta merci, on n'a même pas mis un autre que moi.
Ah oui.
Et en vrai, moi, je trouve cool ce morceau.
Trop cool.
Allez.
Esthétique 80, du coup, ou pas?
Bah oui, tu vas voir quand il va la basse slapper avec une espèce de chorus ou je ne sais quoi comme effet dessus. 80 à fond.
Et d'ailleurs, c'est une fausse basse. C'est pas une vraie basse.
Ah, c'est vrai?
C'est une basse de Logic.
Ah.
Et un de mes deux producteurs, avec qui je ne bosse plus d'ailleurs, mais ne voulait pas la laisser cette basse.
C'est vrai?
Ouais. Il me dit, ah non, mais là, c'est trop typé. Je dis, ouais, mais bon.
Ça marche.
C'est ça qui fait que.
On va l'entendre, elle va arriver là.
Ouais, elle arrive là. Lancée comme une guerrière dans la mêlée, le regard fixe prêt pour la rixe, chérie, parce que maintenant que je te le dis, est-ce que t'entends que c'est une fausse basse ou pas?
Alors, tu sais quoi? Je me suis posé la question, j'aurais pas été capable de dire que c'était pas une vraie basse.
Oui, mais Logic, ils sont forts, ils ont une espèce de simulateur de, tu sais, de bruit de doigts sur la corde.
Ouais.
Tu vois ou pas?
Ouais.
C'est des fous.
Ah, ça, c'est avec Logic que tu le...
Ben, en fait, GarageBand d'abord sur l'iPad.
Ouais.
Et puis après.
Après, Logic, c'est compatible.
Je passe à Logic parce que, ben, c'était le logiciel qui permettait de prendre tes morceaux de GarageBand dans, ouais. Sinon, j'aurais fait Ableton.
Comme tout le monde.
L'interface est toute pourrie. Moi, j'adore les trucs faciles, tu vois. Ouais. Les outils faciles, tu comprends très vite. C'est génial, quand même, cet outil. N'importe qui est même pas musicien, il peut faire des prods s'il a des idées, quoi.
Ouais. Ouais, c'est génial.
Bien sûr. Quoi. Bien sûr. Alors, attends. On a entendu le refrain ou pas? Il me semble pas. On va mettre le refrain. Il est trop bien ce morceau. Alors c'est tube, c'est calibré, etc. Mais il est trop bien.
Ça me fait penser à du jeu vidéo. C'est marrant. Hein.
C'est vrai. À côté jeu vidéo.
Ouais, ça me fait penser à une bande son de jeu vidéo. La façon dont ça commence et tout. je revois Lotus Esprit Turbo Challenge sur Atari ST. Tu vois donc.
C'est si précis.
Ah, c'est très précis. Ah ouais. Bah, je voyais quoi. La musique de jeu, moi, c'est.
J'aimerais. Ça a l'air d'être un exercice très délicat, la musique de jeux vidéo. Même les. Faire les voix, mais ça a l'air super.
Ah. Ouais, on connaît des gens qui.
Mais on fera bientôt, ça met un peu de temps, mais une émission avec des compositeurs de musique.
Ah, mais je serais curieuse d'entendre ces mecs-là parler parce que ça a l'air vraiment passionnant, quoi.
Carrément. Ça te va, toi, de faire un tube comme ça et te dire, je sais pas si c'est le morceau dont t'es le plus fier, le plus complexe, le plus, etc., mais il est d'une efficacité terrible. Mais moi, c'est un truc que j'apprécie dans la musique, en fait.
En fait, la question que moi je pose, la question bateau,
ouais.
Est-ce qu'au moment où tu le fais, tu te dis, ça marche de ouf?
Bah non, pas toi. C'est les gens autour de toi qui vont
venir. Ouais, tu sens pas qu'il y a un truc quand même.
En fait, il y a un truc qui était assez évident, c'est que dans ce morceau-là, contrairement à tous mes autres morceaux, il y a très peu d'éléments. Il y a un marimba, deux basses, mais qui jouent à peu près la même chose. Elles ont juste deux sonorités différentes.
Ouais.
Deux petits synthés. Et puis la drum est très basique, etc. Donc c'était un morceau minimaliste, selon moi, c'est-à-dire environ 18 pistes. Qui d'habitude, on est à 150. Donc là, c'était, pour moi, il y avait une efficacité parce qu'en très peu d'éléments, j'arrivais à aller là où je voulais.
Ouais.
Donc rien que pour ça, c'était chouette. Et puis après, bah, c'est plus ton entourage qui, t'sais, même avant d'avoir des pros autour de soi, il y a des copains.
Mmh.
Moi, je faisais écouter à mes copains et mes copines, et je me rappelle, j'avais notamment ma copine Morgane, qui est une plus vieille copine. Je disais pas, elle savait que c'était moi, mais elle triche pas, son corps parle.
Ouais.
Et des fois, tu vois, elle fumait une clope, elle mangeait un bout et tout ça. Et je regardais à son corps comment elle réagissait. Et si elle, qui a une culture très différente de la mienne, elle bougeait d'une certaine manière,
c'est
bon. Ouais. Si elle bouge, ils vont tous bouger.
Ah, donc ça, c'est stylé. Cool.
Ouais.
On n'a pas écouté, donc toujours. J'avais, en fait, je t'avoue, j'avais envie d'écouter ce morceau, mais on n'a pas écouté le morceau qui sont sur l'album Avec les yeux. Alors, on va peut-être s'en écouter un seul.
Ok.
Si tu dois en choisir qu'un seul, c'est lequel?
C'est dur, hein, quand même.
Maintenant, juste maintenant, à passer
si
maintenant.
Si il m'en restait qu'une, je serais celui-là. Attends. Si j'en vais en écouter qu'un.
Est-ce que ce serait. Pareil, un peu l'équivalent. Enfin, c'est pas l'équivalent tube. Masque d'or, c'est quand même un des morceaux qui a bien marché sur l'album.
Oui,
je sais
oui.
pas si c'est celui-là que tu aurais envie d'écouter.
Ah non, je pense que celui qui ouvre, qui s'appelle Dans un fou rire,
ouais.
Que j'ai écrit très vite, j'en suis assez fière.
Et bien, cool. Ouais. Il est très cool.
C'est parti pour Dans un fou rire. Bon, années 80 là ou pas, Dan?
Ah là, 100%. 100%.
Absolument assumé. Une espèce de son de CS40, piano, faux piano de.
Ça me fait penser à Gold, c'est un truc de ouf.
À Gold?
Ouais.
Pourquoi pas?
Un peu plus près des étoiles, non?
Moi froid. J'avais ma référence, en fait, ce que j'écoutais beaucoup ces derniers temps, c'était plutôt de la musique de la pop australienne,
ouais.
Crooneuse 90.
Ok.
Obscure. Mais c'était ça mes rêves en ce moment, quoi. Ouais.
Là, la voix change encore.
C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai. Un tout petit peu moins dans les graves, par exemple. Ouais. J'ai l'impression sur ce morceau.
Moins, en tout cas, dans la projection au lointain.
Ouais.
C'est sûr. Mais c'est peut-être le propos aussi qui fait qu'on change la voix. Puis on vieillit. Il y a un truc que je dis. Je venais du punk et il fallait gueuler quoi pour se faire entendre. Plus ça va, plus la musique s'apaise aussi. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle.
On peut pas être un vieux punk, c'est ça que tu dis.
On peut totalement être un vieux punk et on les aime de tout notre cœur. Mais moi, je suis plus en plus...
Apaisé.
Ouais, mais c'est normal, quoi.
Ouais, ouais, mieux, j'ai envie de dire, n'importe quoi.
Ouais, on est mieux dans ses baskets à 30 ans qu'à 20 ans, franchement.
Ouais, clairement. Ouais.
Tout le monde. Hein.
Quand on a évoqué cette esthétique 80, etc., toi, tu t'en es tout de suite revenu aux outils, en fait, aux synthétiseurs, etc. Est-ce que, pour toi, ça passe par les instruments qu'on utilise? En fait, d'une certaine manière, j'ai l'impression que ton propos, c'était de dire... Bah oui, c'est des instruments années 80, mais en fait, c'est juste des instruments d'aujourd'hui aussi. Mmh. Et que...
Ils ont pas beaucoup changé, finalement.
Ouais, enfin, il y en a d'autres aussi disponibles aujourd'hui, mais que, fondamentalement, bah, c'est les outils, ça sonne pareil, mais si on en fait autre chose, ça le fait, quoi. C'est plus cette musique années 80, est-ce que je...
Ouais, il y a aussi l'audace dans la compo, je pense. Et tu sais, il y a eu un...
Mais pourquoi il y aurait plus d'audace avec ces instruments-là?
Parce qu'ils ont découvert un nouvel... Au-delà d'outils, ils ont découvert... On est passé de l'analogique au numérique.
Ouais.
Et donc, bah, c'est avant, il y avait un truc où on voulait, dans les studios analogiques, jusqu'aux années 70, on voulait un son parfait, avec le moins, justement, de parasites, etc., etc. Donc, chaque prise était méga maîtrisée. Il fallait que ce soit parfait, tu vois. T'arrivais en studio, tu chantais bien, tu jouais bien, tout était bien accordé, fallait que ce soit carré, parce que t'as pas 10 000 options pour le enregistrer. Numérique?
On
en fait autant que tu veux des prises, mon gars, puis vas-y, on est abus sur les effets, on essaye des trucs. Et du coup, on a expérimenté beaucoup de choses par cette possibilité d'en faire beaucoup, voilà, par essence. Et donc, bah, y a plein de surprises. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on enregistre numériquement et on a des trucs pour cradifier le son.
Mmh, bien sûr.
C'est drôle ou pas, ça?
Faut que ça soit
des choses
moins dégueulasse.
Propres.
Ouais.
C'est fou, parce que tout est quantize, tout est autotune, tout est...
Et après, tu remets du groove, tu vois. Tu quantize et après, tu remets.
Et tu remets, parce que, comment ça s'appelle, un petit... un swing.
Ouais, ouais.
T'as une option swing, dans le midi, quoi.
Ouais, ouais.
C'est drôle, quoi. Ouais. Tellement on n'est plus capable de jouer leadback. Ouais. Les machines ne peuvent pas jouer leadback, pas encore.
Mais tu vois, c'est pas pour être critique, mais l'audace musicale avec le traitement numérique, je t'avoue qu'aujourd'hui, je le retrouve plus quand j'écoute du Noisia, des trucs avec beaucoup de sound design, etc., que dans ta musique, quand même.
Ah, mais complètement.
Ouais.
Non, c'était plus le côté parti pris fort des voix et des... Non, je suis pas du tout une grande expérimentale, ça, c'est sûr. Mais c'est plus le fond, tu vois, des personnages qui s'amusent, etc., qui sont à l'ancienne, qui fument en studio, quoi. c'est plus ça qui m'intéressait. Mais effectivement, je sais pas qui invente des choses en ce moment, à part les trucs un peu expérimentaux, ou t'avais fait un sujet sur l'hyperpop, là, ouais, il y a de l'expérimentation, il y a des trucs très audacieux qui font plaisir.
Est-ce que, pour conclure un peu, parce que je pense qu'on a déjà fait un petit tour du sujet, fondamentalement,
ouais.
Est-ce que ça te va si on dit que ouais, cette esthétique 80 qu'on ramène sans cesse aux 80, en fait, c'est juste une esthétique intemporelle qu'il faudrait arrêter d'associer absolument aux années 80?
Tout est dit.
Ouais, tu le vois comme ça?
Bah oui, je pense qu'on s'en fout. Je pense qu'on s'en fout. Parce qu'en plus, ça veut plus rien dire. Il y a des morceaux qui sortent aujourd'hui, on dirait des trucs des 70s, mais ça n'en est pas. Regarde les Lemon Twigs, groupe que j'adore. Oui, bon, bah, ils font une musique qui a déjà été refaite par d'autres mecs, mais ils la font tellement bien. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit datée de telle époque? C'est juste bien.
Ouais, c'est vrai
si
que
on aime ça,
ce besoin de,
ouais,
de trouver la ref et tout,
ouais,
c'est vrai que ça.
Ouais, il y a un revival, mais comme dans la mode, comme dans les trucs, c'est pas grave, c'est ouais. Normal. Et puis c'est génial, quand c'est bon, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi parfois un plaisir, une forme de qualité, en tout cas moi j'associe ça à la qualité.
Ah, de pouvoir associer la musique à un truc qui a marché, enfin qui a...
Non, ce que j'allais dire, c'est
marqué,
de reprendre des codes, pourquoi pas, mais de proposer quelque chose quasiment inédit. Ça reste quand même un... Est-ce que c'est pas un but en tant qu'artiste de proposer quelque chose de quasiment inédit?
Alors ça, c'est une vraie grande question et
c'est pas facile d'ailleurs.
C'est pas facile et puis surtout, à vouloir être original, on sera jamais. L'originalité, elle se décrète pas, elle se cherche pas, elle arrive comme ça par hasard. À part pour des gens très acharnés de travail qui du coup vont aller essayer de diguer un truc, mais s'ils se disent faut absolument que je sois original et que j'aille révolutionner le genre, ils le feront jamais. Mmh. Ceux qui révolutionnent le genre, c'est juste qu'ils sont au bon moment, dans une bonne époque, dans un bon truc, qu'ils ont trouvé le bon outil, les bons gens qui vont les écouter.
Très contextuel, tu veux nous dire?
Bah ouais,
ouais,
et c'est vrai que ça fait très longtemps que personne a plié des games. C'est plus dans des façons d'amener les musiques, dans des sujets que là ça change, que le fait que la musique soit accessible à tout le monde, que le savoir, en général, soit accessible à tout le monde. On a tous des écrans qui nous rendent abrutis ou qui nous rendent très intelligents.
Mmh.
t'as pas de moyens, t'as pas de connaissances, t'as pas de contacts, t'as pas de réseau, tu peux avoir un savoir incroyable. Donc maintenant voilà, c'est les outils qui vont nous faire transcender quoi.
Ok, troisième partie, on terminera là-dessus.
Ouais.
Allez. Sur le côté un peu plus carrière, industrie, etc. On a compris qu'à la base, toi, tu t'es pas dit, je vais faire carrière, etc. Que ça s'est fait, pas sur un coup de chance, mais presque. Enfin, en tout cas,
la chance fait partie du truc.
T'as pas galéré, t'as pas trimé. C'est assez exceptionnel, quoi.
J'ai travaillé, par contre.
Ça, bien sûr.
Je travaille toujours et j'aime. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ça.
Certaines facilités. Mais, tant mieux en fait.
Oui, c'est normal.
Non, voilà, j'étais au bon endroit au bon moment. J'ai joué dans une église, l'église Saint-Méry, là à Paris, à Beaubourg. Il y a un producteur qui est passé par là qui m'a dit vas-y, on se voit. J'ai signé. Enfin, voilà, c'est.
Et alors, justement, ça nous donne un bon point de départ pour ce thème. C'est très vite, tu as conscience que tu vas devoir avoir des interlocuteurs, des acteurs de l'industrie musicale, entre guillemets, et qu'il va falloir être accompagné.
Bah non, j'ai juste des gens qui me disent, tu veux faire des concerts? Oui. on fait un disque, on te propose un contrat. Donc là, j'ai pris un avocat, on conseille un avocat, j'ai pris un avocat pour vérifier si mon contrat était bon.
T'avais pas peur?
Bien sûr que si. Ouais. Bien sûr que si. Parce que en plus, j'ai arrêté de travailler aussi. Je l'ai fait en douceur, mais j'avais un boulot au château de Vincennes, puis j'étais serveuse, donc j'ai arrêté tout doucettement. J'étais aussi coach vocal. Enfin, j'arrivais déjà à me démerder. Je faisais du team building dans des entreprises autour de la musique. J'ai fait des trucs.
Ok.
Mais c'était super. J'étais une grosse menteuse. Moi, j'ai beaucoup menti pour obtenir des boulots. Et là, c'est drôle parce que pour une fois, j'ai pas menti et j'ai eu un boulot. Donc c'était bien aussi.
Et est-ce que tu avais cette appréhension du coup de qu'on essaie de te façonner ou tu vois pour essayer de correspondre à un truc
Je te le dis tout de suite, bien sûr. Ouais. Et on a essayé de faire ça.
Ah, ils ont essayé.
Bien sûr.
D'accord.
En 2015-2017.
Pas des noms,
mon ancien label, quoi. Mais c'est normal. Attention, c'est pas malveillant de leur part. C'est qu'ils avaient, trouvé un créneau. La chanson française avait un nouvel essor, etc. Et c'était chouette de faire la chanteuse qui chante des trucs en français et qui doit faire des choses dans les clous. Sauf qu'ils ont très 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 vite vu que plus ils me poussaient à faire ça et plus moi je les poussais à aller dans des trucs expérimentaux parce que j'avais pas envie de... Ma vie de vedette, je vous dis, m'intéressait pas plus que ça. Ma vie de musicienne, ma vie de compositrice, ça c'est... Moi si un jour je pouvais faire que de la musique de film, être dans ma pioule, faire des synthés, je serais la plus heureuse du monde.
Mais du coup, la relation avec ce premier label s'est arrêtée en partie à cause de ça ou il y avait d'autres...
Non, c'est en plus. Bah, en fait, c'était un label où il y avait des groupes super comme Bagarre, Cran Blanc, Moudoïd, Junior, La Femme. Enfin, c'était une esthétique avec que des groupes français particuliers. Et puis là, ils ont changé ces dernières années d'esthétique et en allant plus dans la pop urbaine, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Et du coup, moi, je me suis dit merde, la singularité de ce label était plus là, donc on n'était plus en accord. Et je les aime beaucoup. Et après 7 ans de collaboration, c'était top. Mais voilà, là, on n'y est plus, quoi. Et puis c'est pas très très grave.
Donc ce changement de label, c'est assez récent du coup.
Ouais, c'était cette année.
Ah oui, d'accord.
Mais je suis partie avec, enfin tu vois, il y a un des deux producteurs, c'était deux, mais qui est parti aussi. On est parti ensemble, tu vois. On va faire autre chose ensemble. Okay.
Parce qu'on peut le dire, c'était avec une major, c'était chez Sony.
C'était avec Entreprise, qui est un sous-label qui est chez Also, qui est chez Columbia, qui est chez Sony. Enfin tu vois, c'est toujours un peu des ramifications, mais c'est la direction artistique en tout cas. La distribution est chez Sony. La promotion aussi, donc ça c'est vraiment cool d'avoir les super d'ailleurs équipes de Sony qui mettent en avant ton projet, mais par contre au niveau des choix artistiques, de la musique pure, on restait en petit comité. Et là-dessus c'est un bon deal, je trouve. Franchement, ouais.
C'est quoi ton rapport à l'industrie, dans le sens où dans ce podcast on est parfois un peu dur, et d'ailleurs des gens, ça arrive que je reçois des DM de gens de l'industrie, etc., qui me disent vous êtes un peu dur quand même, parfois.
Sévère mais juste.
Je sais pas. En tout cas, toi, c'est t'as trouvé facilement les bons interlocuteurs, les gens en qui t'avais confiance. Ou est-ce que tu t'es dit, putain, je nage au sein d'une mer avec plein de requins et ça va être difficile de me frayer mon chemin.
Franchement, je crois que on a les gens qu'on mérite. Ou après, des fois, on peut se tromper, mais ça dépend ce qu'on veut faire de sa musique. Mais comme j'étais très claire sur la personne et l'artiste que j'étais depuis le début, je crois que j'ai trouvé les bons. Je me suis entourée. C'est ma plus grande fierté dans ma vie. C'est les amis que je me suis choisi, les gens avec qui je travaille que je me suis choisi. Alors je me suis trompée. Il faut, c'est arrivé que je tombe avec des gens puis en fait on s'entend pas.
Bon,
ça arrive. C'est de la musique, c'est le travail, ça arrive tous les jours. Et il y a plein de gens que je vois qui pourraient m'amener plus haut. Tout ça, mais pour travailler avec eux, il faudrait que je fasse des sacrifices ou qu'ils me bouffent la gueule. Ouais. Et ça, Et je leur en veux pas. Hein. Et mais je sais que je travaillerai jamais avec eux.
Mais
c'est pas grave.
C'est intéressant quand même de se dire que t'avais déjà cette maturité-là dès le départ, en fait, de savoir où tu voulais aller ou où tu voulais pas aller aussi.
Surtout ça, oui. Ouais. Parce que quand tu débutes, je veux dire que tu sais pas où. Enfin, si, il y en a qui veulent absolument faire tel truc. Moi, je savais pas où je voulais aller. Par contre.
Ouais, tu savais ce que tu voulais pas faire.
Bah, j'ai quitté l'école à 15 ans. Mmh. Je savais ce que je voulais pas faire. Je voulais plus apprendre bêtement des choses sans qu'on m'explique pourquoi. Ouais. Je voulais faire un métier concret, je voulais vraiment apprendre des choses. J'arrêtais l'école parce que j'avais soif d'apprendre. C'est bizarre. Et ben c'est pareil quand je suis arrivée dans la musique. Je savais que
ça là non.
Là truc de non, je ferais pas ça. Ça c'est pas pour moi.
Ouais, mais enfin je trouve que c'est une certaine maturité quand même de parce que t'as commencé assez tôt en plus donc
bien sûr.
D'avoir cette détermination là en tout cas, c'est remarquable hein. Franchement on se dit justement quand l'artiste est jeune, il est malléable, il est, tu vois, donc c'est plus facile de lui faire faire des trucs. Et puis après, t'as des artistes qui peuvent dire ouais, alors justement, qui renient un peu ce qu'ils ont fait au début en disant ouais, c'était pas moi parce que je me suis découverte plus tard et qu'en fait bon bah là c'était plus la maison de disque qui m'avait imposé ces trucs là, etc. Et je trouve ça assez remarquable quand on a des artistes qui dès le départ sont fermes sur le truc qu'ils veulent pas faire.
Et à côté de ça, je trouve ça remarquable les artistes qui disent ouais c'était pas moi et qui ont su aussi reprendre. Ouais. Le lit oui. sur eux-mêmes ouais. leur truc et qu'ils puissent dire bah ouais c'était comme ça et j'ai pas été malin à l'époque mais c'est normal on te promet mons et merveilles pour certains
ouais.
et moi j'étais dans un petit label j'ai pas non plus un truc de fou furieux quoi
ouais.
Donc c'est moi je suis partie de la classe moyenne de la musique française et ça me va bien comme ça j'aime bien ça
bon, en tout cas, moyenne. Tu confirmes qu'il y a plein de labels et plein de gens d'industrie de qualité qui sont là pour aider les
absolument,
artistes
absolument vraiment
donc là ouais. c'est juste pour que tu t'arrêtes de recevoir des demandes revanchards
c'est pour essayer d'être un peu juste aussi parce que c'est vrai je pense
il y a beaucoup de gens très très durs et j'ai vu des choses dures notamment pour des confrères et des consoeurs ouais. notamment ouais. des consoeurs à moi qui s'en sont pris plein la gueule mais il y a aussi beaucoup de gens tous les gens qui font ce métier je crois l'ont vraiment voulu et peut-être que la bataille pour y arriver les a rendus certains aigris mais il y en a plein qui sont vraiment des jolis cœurs et passionnés et compréhensifs et tout ça et en tout cas moi si quelqu'un veut se lancer je dis que c'est possible de trouver des gens comme ça je vous dis ils existent et il faut les garder très très précieusement.
Ah, c'est un beau message ouais c'est vrai.
Ouais non mais
c'est vrai qu'on dépeint peut-être aussi le milieu des majors un peu comme des squales et tout
ça,
et
essayons d'équilibrer un peu
et quand même de l'artistique ouais oui oui quand même. Pardon.
Même si on le répète souvent dans cette émission et il faut le dire c'est une industrie est là pour générer de l'argent et que parfois ça colle pas avec des velléités artistiques etc ça c'est clair.
Et l'industrie de dont le marché est... Et la monnaie et le désir, l'amour, fait qu'il y aura toujours un chemin de traverse. Parce que le public aussi est sensible à ça. Les gens sont pas bêtes, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui prennent ce qu'on leur donne à bouffer. Mais il y en a plein qui ont envie de faire leurs propres recettes et d'avoir des ingrédients intéressants. Donc il y a une place même pour les artistes. On ne viendra pas, on n'est pas tous les jours à la télévision, on n'est pas toujours dans les trucs, mais en fait, on a une vie musicale très très belle parce que c'est mon cas et je suis très fière de ça ouais.
T'avais conscience ou est-ce que tu as conscience même encore aujourd'hui du fait que tu t'es dit que tu t'étais entouré avec un avocat que bah il y a des contrats différents qui existent dans l'industrie musicale classique contrat d'artiste contrat de licence contrat de distribution etc qu'il faut choisir en fonction parce que tous peuvent avoir leur intérêt
ouais.
leurs désavantages aussi notamment avec économique Tu fais tes choix toute seule. Comment tu t'en sors là-dedans?
Ah non, je me suis fait accompagner. Bah évidemment, moi j'étais, on est purement artiste. C'est un vrai métier, hein, ça, de l'administratif. Même aujourd'hui, on est community manager. On doit faire notre propre promo. C'est de l'autopromo aujourd'hui, ouais. tu vois. Bah non, au début, t'es trop content d'avoir un contrat. Après, on te conseille. Moi, franchement, une licence, ça aurait été pas intéressant parce que j'avais pas de pognon. J'avais rien. J'en ai une famille très modeste. Je pouvais pas prendre ce risque-là. Moi, que, ok, il y a un label qui prenne 50% de ce que je gagne, mais en même temps, qui me fasse gagner 50% du reste, j'étais pas malheureuse, ouais. si tu veux. Donc, ça m'allait très bien. Mais oui, on t'accompagne, puis on te dit, qu'est-ce que tu veux en faire. Après, les choses évoluent, tu veux. Maintenant, j'ai un peu plus de connaissances, je suis en coédition, enfin tu vois, les choses évoluent tranquillement. Est-ce que j'ai envie de prendre les risques financiers que ces mecs-là prennent? Je suis pas sûre. Je te dis, moi, je veux juste composer, les mains sur le synthé, et puis si j'arrive à faire un week-end avec mon chien dans la forêt, je suis contente, quoi, ça me va.
Mais t'es consciente que, d'une certaine manière, en tant qu'artiste, tu te dois d'avoir quelques aspects d'une businesswoman, d'une meuf qui est capable aussi de gérer son argent, de faire des choix industriels, etc.?
Ah oui, mais ça c'est évident. Ouais. c'est artistiquement que c'est important pour moi. Et ça viendra, tu vois, le reste, pognon, pas pognon, il y a des périodes de haut et de bas. Mais si on commence à trop penser à son métier, soit qu'on fait plus, ouais. On fait plus notre musique, quoi. Donc je préfère payer des gens pour faire le métier, ouais. Des gens de confiance, pour en concentrer à fond. Et parce que comme enfant, on était fascinés par des trucs qui nous fascinent plus aujourd'hui. Il faut pas qu'on perde l'émerveillement du musicien qu'on était adolescent et qu'on est jeune adulte et qu'on est adulte. Si on est trop bouffé par l'industrie, en tout cas, je sais que moi, ça pourrait me dégoûter, ce métier. Il faudrait pas.
Pour le concrétiser, ça, ouais, je me posais une question. C'est le streaming. Bon, y a un modèle économique derrière, etc. Mais il y a même un truc extrêmement visible que tout utilisateur peut voir, c'est le nombre de streams directement. Et ce qui te permet de juger aussi de la réussite. Même un mec qui n'a rien à voir avec ta carrière, il va juste taper Fishback, puis il va voir les morceaux qui font beaucoup de streams, ceux qui en font pas trop, etc. Alors moi, par curiosité, j'ai regardé un peu tes streams sur tes différents albums, en fonction des morceaux. Ça, c'est des classiques, hein. Ouais. Mais il n'y a pas du tout le même nombre de streams. J'ai l'impression qu'avec les yeux, il y a un peu moins de streams aussi que sur À ta merci.
Oh bah clairement, il n'y a plus l'aspect découverte, donc forcément. Puis il est moins, bah,
il
est moins vieux.
Il est récent.
Il est moins
il
vieux.
Il a un an, donc.
Est-ce que c'est des trucs auxquels tu prêtes attention?
Je me rappelle, il y a mon ami Martin qui a écrit les paroles de Masque d'or,
okay.
Qui a fait un post Instagram en disant « On a fait 1 million de streams pour ce morceau ». J'ai dit « Mais Martin, t'as fait un post pour dire qu'on a fait 1 million de streams ?» J'ai dit « Pour toi, c'est important ». Il dit « Bah ouais, c'est mortel ». Ouais, t'as raison, ça doit être mortel.
Enfin, ah, t'as pas de...
J'en ai rien à foutre.
Enfin, t'as pas de jalon comme ça, de milestone
non, à passer. Non, à la limite, j'ai une déclaration SACEM qui okay. Me permet de rembourser ma maison. Mais, ouais. c'est tout.
T'as pas d'objectif de se dire, allez, celui-là, il fait 10 millions.
Oh
machin.
La vache, non, quoi.
Et dans ton label, ils ont pas ce... Parce que eux, ils sont
si,
beaucoup plus
près
des chiffres.
Non, mais je pense qu'ils me le disent pas.
D'accord.
Parce qu'ils voient bien que ça me gonfle, quoi.
Ouais.
Et que plus on en parle, plus ça me saoule. Et puis, du coup, je vais me formaliser. Non, c'est pas important. Mais il y a un truc que je trouve un petit peu indélicat, c'est-à-dire que, par exemple, moi j'aime beaucoup les groupes un peu obscurs, genre j'adore les gens très connus, puis j'adore les gens qu'on connaît pas. J'adore mettre en avant des petits artistes et tout ça, quand ils m'écrivent, ils me font écouter leur SoundCloud, leur Spotify, je trouve ça génial. Et c'est vrai que des fois tu vois quelqu'un qui s'est donné à fond pour sortir un disque, et là tu vois que son morceau il a 1000 streams, moins de 1000 streams des fois. Et du coup, ça pourrait le dévaloriser.
Ouais.
Alors qu'en fait non, c'est très quali. Le truc du chiffre, je le trouve horrible.
Ça veut pas dire que la musique est bonne ou pas.
Non, parce que moi j'écoute très peu. Enfin, j'écoute énormément d'artistes, mais très peu de fois. Je dis, j'écoute 200 artistes par jour. Donc je leur apporte pas beaucoup de streams, mais je les aime très très fort. Mon investissement, il est très très impliqué. Donc le chiffre, il vaut rien. Un gamin, des gens passent de la musique sur YouTube dans un magasin, ça veut rien dire.
Ouais.
L'investissement ne veut rien dire. Donc les chiffres, c'est les chiffres des concerts qui sont importants.
Ouais.
Le nombre d'entrées, la billetterie, ça c'est important.
Ouais.
La billetterie, ça je suis contente. Moi, quand j'arrive dans une salle de concert, quand c'est pas annoncé complet, j'en ai beaucoup des complets, je pense à moi. on a de la billetterie, ça j'aime bien savoir. Parce que ça c'est concret.
Là, tu le vois devant toi.
L'investissement, il est là. Les gens, ils viennent là. Ouais. Ils se sont déplacés. Ça c'est un chiffre important. Le stream. C'est pas ça qui nous rapporte du pognon, je vais te dire. Enfin, mal à foutre.
Et en même temps, est-ce que c'est pas un indicateur quand même, je sais pas, par exemple, quand tu vois que sur un album, il y a deux morceaux qui ont beaucoup plus de streams que d'autres, que bah ça plaît un peu au public, et pourquoi pas t'en inspirer, alors pas se vendre complètement au public, mais pourquoi pas l'utiliser comme un des indicateurs qui te permet de donner une orientation à ta carrière, à tes envies.
L'indicateur, c'est qu'il a été mis en playlist ou en avant.
Bah, c'est ça.
Et puis surtout, c'est drôle, tu vois, il y a des morceaux qui ont été mis en avant, des singles, notamment sur le deuxième album, et puis en fait, c'est pas forcément ceux qui ont pris le plus. Ouais. Et puis c'est un autre morceau qui a fait sa vie, alors qu'on n'avait pas forcément clippé, qu'on n'avait pas mis en avant, qu'il va passer en playlist sur France Inter, tout ça, et en fait, il a plus de streams qu'un autre. Parce que les gens le préfèrent. Donc même si on forçait les gens à aimer Presque Beau, alors c'est drôle d'ailleurs que ce morceau s'appelle comme ça, un petit peu raté ce morceau, pas dans sa réalisation, mais dans l'accueil, quoi. Eh bah, tu vois, tu t'es toujours rattrapé par le truc. Donc en fait, si des fois il y a des mises en avant de playlists, tout ça, et merci d'ailleurs les plateformes qui nous mettent en avant, c'est vraiment important.
Mais la mise en avant de playlists, c'est-à-dire qu'un de tes titres soit dedans. c'est pour toi, c'est quelque chose que tu valides ou en fait c'est les gens qui font les playlists qui disent on le met en avant et puis.
Ah non, il y a les OP un peu. On te sollicite, est-ce que tu peux pas faire une petite story en nous taguant, etc. Puis du coup, c'est des arrangements, c'est du business.
Il y a même des gens, alors ça c'est pas officiellement parce que normalement dans les plateformes font pas payer parce qu'en fait il y a des playlists éditoriales gérées par les plateformes, des gens aussi qui font leurs propres playlists et il y a un business model qui existe de gens en fait qui ont des playlists indépendantes et qui alors normalement c'est pas censé être fonctionné comme ça dans les règles de la plateforme font payer l'apparition dans la playlist, ouais. Ça existe. Oh, t'as plein de modèles
t'en
différents.
T'en parlais pas, ça, dans ton dans ta vidéo sur l'effet extreme, ouais.
Je l'aborde pas en longueur parce que c'est un des éléments, je voulais me concentrer vraiment sur l'effet extreme, mais effectivement, c'est un business qui existe aussi.
Je crois que c'est des choses que j'ai entendu parler dans les bruits de couloir. Ouais. Mais tu sais quoi, j'ai même plus envie d'entendre ce genre de discussion parce qu'en fait, ça me pompe l'air. Je suis ravie d'en parler avec vous aujourd'hui, mais je suis ravie qu'on ait pu parler de musique avant tout.
On garde toujours le business pour la fin.
Si de nos auditeurs, certains vous écoutent pour connaître un petit peu les coulisses de la musique, je pense que c'est bien de savoir pas mal de choses pour se prémunir des choses à venir, si elles doivent advenir d'ailleurs. Mais aussi, il faut garder... faut pas tout savoir parce que sinon on devient dégoûté et l'émerveillement c'est comme mater trop de making of d'un film quoi. Ouais. Est-ce que la magie va encore opérer quand tu vas voir le dernier Seigneur des Anneaux quand t'as vu que tout était en carton pâte? Je sais pas.
Je crois que la musique a quand même pour elle, même s'il y a toute une organisation autour, des gens bien intentionnés, d'autres moins, etc. Il y a la musique qui parle aussi à un moment et ça part quand même d'un musicien qui essaie de faire des trucs dans son coin et de le proposer aux autres et ça restera, tu vois. Donc il y a de quoi rester quand même enthousiaste. Et...
Je pense qu'il faut l'être. Ouais. Je pense qu'il faut l'être parce que de toute façon, il y a bien une chose à se prémunir, c'est l'aigreur. Ça, faut s'en prémunir. On en a vu plein. Et c'est le pire truc qui puisse t'arriver quand tu as une carrière longue.
Ouais.
Et voilà. Je dis, l'émerveillement, j'arrête pas de le dire, mais... Et je pense que d'ailleurs, moi qui chante beaucoup mes tourments, ma musique parle beaucoup d'introspection, de mes malheurs, etc. J'essaie de me calmer parce que j'ai peur qu'en chantant tous ces malheurs sur cette vie, je l'appelle le malheur, si tu veux. Et donc, pareil, en interview, là, je me dis, bien sûr, il y a plein de trucs qui sont terribles. Mais si je me focus là-dessus, je vais tout trouver terrible, tu vois. C'était très stoïcien ce que tu as dit tout à l'heure. On peut pas changer le monde, mais notre façon d'appréhender ce qui se passe autour de nous, ouais. Mmh. Oui.
Tu parlais de, et puis ce sera pour conclure, après on passera aux recommandations. Tu parlais de musique de film tout à l'heure. T'as fait quelques petites excursions, j'arrive pas à prononcer le truc, c'est ça, excursions, oui, au cinéma. Alors, il y a l'expérience en tant qu'actrice, assez rigolote d'ailleurs, dans la série Vernon Subutex, donc inspirée de Virginie Despentes, enfin, une adaptation produite par Canal+, dans laquelle t'avais en plus un rôle relativement important.
Ouais, étonnant.
Et à côté de ça... Tu as participé par exemple, c'est en 2022, c'est relativement récent, à un morceau pour L'Origine du Mal, le film L'Origine du Mal. Est-ce que c'est un objectif pour toi, que ce soit en tant qu'actrice d'ailleurs ou en tant que musicienne, de plus bosser avec le cinéma et pourquoi cet attrait?
Elle a passé une heure et demie à nous dire qu'elle voulait faire de la musique de film.
Ouais, j'ai bien compris, mais pourquoi?
Non, parce que j'écoute énormément de ça. Moi, je vous dis, j'ai une passion pour Vangelis. J'écoute Vangelis en boucle tout le temps. Des Morricone, même Cosma, moi qui suis très franchouillarde et tout ça. Et non, j'aime beaucoup ce rapport au film. Le film m'émerveille quand même beaucoup. Comédienne, c'était une opportunité qu'on m'a offert, mais c'était bien aussi de faire une pause dans la musique parce que c'est un métier musicien qui est H24. Tu vois, y a pas de. C'est aussi pour ça que je vis dans les Ardennes avec ma famille, puisque c'est bien. Dans mon village, tout le monde n'a rien à foutre
T'es resté là-bas.
Elle est revenue plutôt, parce que t'as vécu un moment à Paris pour ta carrière.
Ouais, bien sûr, pendant 7 ans. Ouais. Et là, je suis revenue là-bas parce que c'est bien d'avoir
une base.
J'ai un jardin en ce moment, je fais pousser des framboises. J'ai trop envie d'avoir plein de framboises. Enfin, c'est vraiment un objectif de ma vie personnelle. Mais ça ne concerne personne. Et je peux pas le faire à Paris. Et donc voilà, je vais faire pousser mes framboises. Mais oui, la musique, et faire des apartés comme ça dans une carrière, enfin, voilà, ça fait du bien parce que, en plus avec Instagram etc, c'est toujours dans l'alimentation de ton truc, donc de te mettre au service d'un projet qui n'est pas ta gueule, parce que là on parle que de moi depuis une heure là. Je suis contente, tout le monde aime parler de soi, hein. Mais au bout d'un moment c'est un petit peu, enfin j'ai aussi à apprendre des autres pour nourrir la bestiole, celle qui va créer. Donc le cinéma permet ça, quoi. Les images, les artistes, les comédiens, fans. Je suis amoureuse des acteurs, quoi.
Y compris une approche plus instrumentale de la musique, parce que souvent dans la musique de film, quand même, il y a moins de voix.
Bien sûr. J'adore. C'est vrai que là,
alors que c'est pourtant
l'origine
c'est important
du mal,
pour toi,
c'était
la voix.
Oui, mais c'est important parce que c'est un truc d'expressionnisme. C'est presque comme du sport, tu vois, comme les gens qui font du sport. Mmh. Et ouais, je vais courir, ça me fait du bien. Ah, je vais chanter, ça me fait du bien. C'est pareil, c'est très physique la voix. Mais par contre, il y a plein de morceaux que j'ai envoyés d'ailleurs à mon label qui sont instrumentaux. Il me dit, bah, tu vas chanter dessus. Mais non, il est bien le morceau comme ça, non? Oui, il est bien. Ben oui, bah, on va pas sortir un album instrumental de Fishback. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Mais oui. Je rêve de ça, ouais.
Je vois à peu près où ça va partir cette carrière-là. Je le sais, je le sens. J'ai...
Bah, la petite vieille avec ses framboises et ses synthés.
Mortel,
c'est moi. C'est moi.
En vrai, j'ai l'impression. Est-ce que, alors, j'ai pas de recul du tout. Je sais pas. Peut-être que tu vas me dire, mais que c'est un peu plus ouvert qu'à une époque la musique de film, que beaucoup de musiciens, artistes qui ont originellement une carrière d'artiste vraiment pure, pas liée au cinéma, ont cette opportunité de plus en plus, j'ai l'impression.
Irène Dresel, première femme à obtenir un César pour une musique de film.
Absolument.
Une meuf qui vient de la techno, j'adore ce qu'elle fait. Elle vient de la techno, genre vraiment des clubs bien sales, quoi. Mmh. Et là, clac, robe rouge, César, t'as la cité à tout. J'adore. Mais j'adore. Mais oui, ça s'ouvre. Et puis surtout, non, mais tu dis ça, mais je crois que même les carrières de tout le monde, c'est fini, genre t'es boulanger toute ta vie, non? Les gens font plein de trucs, quoi.
Ouais. Après, il y a ceux qui peuvent le faire par choix, et puis il y a la précarité aussi, qui fait que, globalement, on casse des modèles de CDI, etc., aussi, pour faciliter la maniabilité.
Bah, j'ai été.
C'est pour ça qu'on change.
Moi aussi, j'ai été intérimaire avant d'y aller, donc je capte tout à fait ce que tu dis.
Daz, t'avais d'autres éléments dont tu voulais parler?
Non, ouais, juste peut-être un petit point sur, donc on parlait du label et comment il pouvait ou il tentait d'influencer l'artiste que tu étais, et que tu es toujours d'ailleurs. Un petit point juste sur les réseaux sociaux, parce qu'on parlait de ça aussi, y compris en off. Est-ce que t'as des pressions par rapport à ton entourage de te dire il faut que tu sois plus présent par exemple sur Instagram ou sur TikTok, sur Snapchat si ça existe encore?
Faut que tu répondes plus vite au DM de Salman.
Non, ne m'écrivez pas sur Instagram, je réponds 15 ans après. Non, j'ai fait une grande cure d'Instagram là, parce que j'étais très à fond à répondre à tout le monde et puis c'est devenu une messagerie, oui. Donc je me suis un peu calmée, ça m'a fait du bien dans la tête. Je pense que les gens captent que ça devient un peu une charge hein, quand même hein, de voir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, ils sont adorables. Il y a des gens qui m'écrivent tous les jours.
Ouais.
Et comme le truc est bien fait, que j'ai une notification, il faut que j'aille regarder, tu vois.
Ouais.
Donc ça me fout en l'air, donc j'ai laissé tomber. Non, si j'ai eu avec le label que j'ai quitté, ils m'ont dit, faut absolument que tu fasses un TikTok. Hein. J'ai dit, mais tu m'as vu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'aimais bien les vidéos, la limite de, j'ai pas TikTok, mais les vidéos de gens qui font des timelapse de peinture.
Ouais.
Ça, je trouve ça super. Ou les mecs qui font une instru tout seul dans leur chambre, tout ça. Les mésergues ou des mecs comme ça qui font des trucs. Ça, j'adore. Mais moi faire un TikTok, chérie, c'est horrible, je déteste. Il faut que ce soit créatif.
Ouais.
Je leur ai dit, si le truc il devient une source de créativité, alors d'accord. Mais j'ai pas encore pris le pli. C'est pas dit que je le ferais pas, mais j'ai pas encore trouvé. Là, il y a des gens tellement intelligents qui font ça.
Donc là, sur les réseaux où tu es présente, il y a pas de CM pour toi, il y a pas de community manager, c'est toi qui le gères toute seule. Enfin,
oui.
Ouais, ok.
Bon, j'ai 38K, c'est ok. Puis les gens, pareil, au début, ça m'écrivait beaucoup, ça donnait beaucoup son avis. Et j'ai répondu à 2-3 commentaires où j'ai envoyé balader des gens publiquement.
Ouais.
Un peu coup, à la Joe Star ou la Fida Turner, tu sais.
Ou à la Daz.
Ou à la Daz, tu fais ça, toi?
Aussi, ouais.
Mais 2-3 trucs, tu sais, les mecs, ils disent, arrête de fumer, puis il fait ci, puis il fait
ouais,
ça.
Ouais. Tout, surtout puis pour une femme, en plus, les injonctions.
Arrête ma poule, arrête de m'emmerder, quoi. Ouais. Tu vois bien. Soit tu, voilà. Et donc, maintenant, ils font plus. Ils ont compris. Je te dis, il y a un public très, très bizarre, mais très fidèle aussi, qui capte tout ça.
Ah, t'en fumes un en public et du coup ça fait des gens, tu laisses,
ça calme les autres.
Tu laisses la carcasse tu sais sur le portail et comme ça les autres comprennent, tu vois. Non mais c'est une bonne mentale, j'aime
ça
bien.
Fonctionnait bien.
Très bien. Les amis, on passe aux recommandations.
Yes. Ouais.
Alors, on t'a prévenu juste avant l'émission, mais est-ce que t'as un petit morceau en tête que t'as envie de faire découvrir à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent?
J'en ai plein, mais j'en ai plein qui me passent par la tête et je vais regretter. Mais je sais qu'il y a une nana que j'aime beaucoup et qui j'ai joué au Musée des Arts Déco, qui s'appelle Eloi,
okay.
De la connaître. Elle a refait une reprise. Alors moi, je ne savais pas que c'était une reprise. Donc le morceau, je l'écoute, je le trouve dingue, elle a joué, je l'ai trouvé super, ça s'appelle JTM de ouf, okay. Et apparemment c'est une reprise d'une chanteuse youtubeuse qui s'appelle Wajden.
Ah Wajden, ouais, qui est pas vraiment youtubeuse à la base, si.
Non
pas youtubeuse Wajden à la base.
Ah non, Wajden elle est chanteuse.
Ouais.
D'accord. Après... Et mais en fait le morceau est très différent, donc la version de Eloi, mais c'est... on parlait d'hyper pop et enfin c'est toi qui parlais d'hyper pop.
Absolument. Pour... Ben,
là pour moi c'est de l'hyper pop à la Frenchie, ultra cool.
Mais c'est pas Loxley la dernière fois qui nous a parlé de ce morceau qui s'appelle Je t'aime de ouf.
Je t'aime de ouf, ouais.
Justement, ouais. C'est rigolo. Son rework est à tomber par terre, je trouve.
Ouais. Et ben écoute, donc c'est Eloi, pardon, Eloi, ouais. Je t'aime de ouf, reprise de Weshden.
Bah ouais.
Incroyable, écoutons ça.
J'écoute ça en boucle. Je l'écoutais plein de fois. J'étais en tourbus là. C'est très très loin de ma musique, hein. J'adore. Je t'aime de ouf, je crois que je t'aime dans la peau. Même le matin t'es beau, j'ai rêvé que de toi. T'es ma prince dans le château. Quand je pars en guerre, tu t'as mis direct au fond. L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds. Dans le cœur et que toi, avec la place pour aucun autre. J'ai déménagé, les jaloux sont sur nos côtes. Je t'y suivrai partout. Les jaloux sont sur la côte.
J'avance un tout petit peu pour voir s'il y a
bien
un
sens. Ah oui, ça part après.
Ah oui.
Tu vois, afrobeat, techno et tout, c'est super bien.
Ah, effectivement, il y a un gros côté hyper pop, y compris avec des sons un peu assumés, considérés comme kitsch. Mais en fait, tu vois, que t'envoies, etc. Très cool. Donc c'était Je t'aime de ouf de Eloi.
Ouais. Je t'aime de ouf.
Est-ce que t'as une reco? Une autre reprise de Weshden ou...
Non. Je crois que c'est une reprise aussi. C'est un morceau d'une meuf qui s'appelle Lady Blackbird.
Okay.
Le morceau s'appelle Beware the Stranger.
Okay.
J'ai entendu ça chez un de mes cousins qui est à fond dans le jazz pendant qu'il est en train de me voler mon argent au poker. Et j'ai dit, oh, ça tabasse. J'aime beaucoup.
Ok.
Voilà. Je sais même pas d'où vient la meuf, ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle fera, je sais pas. C'est pas du tout ce que j'écoute en temps normal, tu vois. Mais là, je sais pas, ça. Pendant que j'étais en train de perdre.
Ouais.
Je me suis dit, waouh, il y a un truc là, attends. Je joue pas, je me couche.
C'était le son de la défaite.
C'était lié à une émotion assez intense pour toi, c'est bon.
Ouais, c'est ça.
Beware the Stranger, Lady Blackbird.
Alors là, ça commence doucement, mais il y a des chœurs autour de la 1 minute 40 à peu près.
Okay. Tu veux dire que j'avance un petit peu?
Ouais, juste là, attends, on laisse l'ambiance.
C'est la BO de Elle est Noire.
C'est mystérieux. J'adorais Elle est Noire.
Elle est Noire. Ouais.
Très bon.
La
très
BO
bon
est sublime.
Doubt.
Ok. Grosse voix.
Ouais. Je crois que ça vient de Los Angeles. Ou...
Je me permets d'avancer un peu.
Vas-y, mais. Attends. Mais genre à 1:45. Et cette partie-là, je la kiffe. Vraiment.
Je te vois tellement avec tes cartes de merde dans la main, là. Un 2 et un 3.
Ah, c'est. Okay. Un gros kiff, vraiment.
C'est très joli.
C'est trop beau.
C'est vachement bien.
Superbe voix.
Merci pour la reco d'Az. Très bon morceau. Tu vois, je l'ajoute, regarde, dans mes favoris. Non, je vais le faire directement comme ça. Hop. Et je termine avec une reco. Bon, j'ai pensé un peu à toi, oui.
Vas-y, on t'écoute.
C'est. Je sais pas d'ailleurs si c'est ton kiff, mais en fait, je pensais à des morceaux années 80. Et que je trouve
arrêtez
trop bien. Et je crois que ça, c'est mon côté lyonnais. Je crois que les trucs.
Oh, ça va être du funk.
Non, mais les trucs électro-funk. Moi, c'est ma cam de ouf. C'est ma cam de ouf. Et c'est du Madonna. C'est un grand classique.
Ah, bah ouais.
Bah oui.
J'ai envie d'appeler tout le monde pélo, là, tu vois. Grosse guitare bien compressée là.
Bien sûr.
Il dure 12 heures ce morceau, non?
C'est l'extended version.
Là, c'est la version. Mais je la préfère. Le mix est différent aussi sur ce morceau, sur cette version.
Mais les extended. Moi, ce que j'aime, c'est les dub versions.
C'est quoi, pardon?
Les dub versions des morceaux. Parce que tu sais, dans les années 80, il y avait beaucoup de maxi avec l'extended, mais aussi la dub version.
Okay.
Qui n'a rien de dub, de ce que nous entendons. Ça n'a rien à voir avec la dub music. Non, rien. C'est les dub versions des morceaux.
Okay.
C'est réarrangé un tout petit peu autrement.
Ouais.
Beaucoup plus de reverb, pareil, mix un peu différent.
Okay.
Et c'est souvent ce que je passe en club, les dub versions. Il y a plein de dub versions de Mado qui sont tombés par terre. De Billy Idol aussi, beaucoup.
Ah, putain, j'adore Billy Idol aussi. Ouais. On s'écoute juste parce qu'on n'a pas entendu la voix de Madonna.
Pardon.
Est-ce qu'il faut entendre sa voix, par contre ?
Oui, en vrai, okay, si.
Ok.
T'as pas Mado ? Alors, c'est ce que je voulais dire quand je vous ai interrompu. Moi, Mado, elle me touche pas.
Ouais.
T'aimes pas Madonna ?
Et là, je viens de perdre 30 000 followers. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça me... Mado, en fait, il y a un truc... Il y a ça chez Prince aussi. Tu sais, c'est des gens qui sont tellement bons. Mais des fois, ça marche pas. Tu vois la sensibilité, le truc qui te brise le cœur. Ouais, non, mais ça, c'est personnel.
Prince,
tu vois,
j'adore.
Ah ouais, Prince, j'adore.
Et Madonna, moi, c'est la période 80.
J'ai encore loupé une occasion de fermer ma gueule.
Non, mais non, c'était goût.
Au contraire.
Mais par contre, on l'a à peine entendu chanter. Moi, je peux quand même l'entendre un peu.
Bon, allez, vas-y, allez.
Ah, c'est vraiment bien quand même. Non, mais si, je me tais.
J'en connais même pas sa voix, je vais te dire.
On est dur, moi. On est dur.
Elle répète tout le temps la même chose. Bon, voilà, en gros.
Donc, elle a dit Starlight.
Toi, c'est le genre de guitariste qui fait des cocottes.
Ah, de ouf. Bien sûr. Mais tu sais, moi, j'ai abandonné les ambitions techniques guitaristiques depuis longtemps, les shredders et tout. J'adorais ça, évidemment, tu vois. Mais j'ai bien vu qu'il fallait que je travaille beaucoup plus si je voulais aller aussi vite qu'eux. Et donc, je me suis concentré sur soit les mecs un peu plus blues, tu vois, avec un bel overdrive et qui ont un super touché, soit les trucs avec plein d'effets, soit effectivement ultra compressés en mode cocotte, etc.
Je vois.
C'est ce que je kiffe.
Eh bien, c'est très bien.
C'était une belle émission.
Oui.
Je suis content. Oui. Est-ce que tu sais, c'est intéressant ce que tu disais, comme quoi on a parlé de toi pendant, je sais pas, ça doit faire une heure et demie, je pense, là, à peu près que ça tourne. Ouais, c'est vrai. Et en fait, moi, j'ai pas encore trouvé le bon ajustement, tu sais, qu'on reçoit des artistes, parce que mine de rien, on reçoit assez peu d'artistes, on reçoit beaucoup de journalistes, de professionnels autour de la musique, etc. Et à chaque fois qu'on reçoit ces gens-là, on a un thème. C'est-à-dire qu'on parle assez peu d'eux, en fait, mais ils nous apportent leur expertise. Et moi, c'était mon ambition première, en fait, dans ce podcast, c'était d'avoir vraiment un thème à chaque fois.
Ouais.
Et quand on reçoit des artistes, c'est un peu différent parce qu'il faut parler aussi de leur carrière, de leur musique, etc.
Cool.
Et donc, ce que j'essaye de faire, j'espère que ça se ressent, ce qu'on essaie de faire avec Daz, c'est, oui, on parle de la personne, mais de dégager des sujets et d'aborder des sujets qui peuvent parler aussi aux autres, qui parlent d'une situation, de notre monde, de l'industrie musicale, de la musique comme on l'a fait aujourd'hui, etc. J'espère que c'est ce qui ressort, en tout cas, de cette émission. Donc, oui, on a parlé de toi, mais l'idée aussi, c'était de parler, en fait, de la musique de manière générale, je pense.
Ouais, j'ai l'impression que c'est ce qui ressort en tout cas sur cette chaîne YouTube. Et je veux regarder, maintenant je suis dans l'écran, je suis trop contente. Merci, c'est cool.
C'est un plaisir.
Les amis, allez écouter Fishback, c'est vachement bien.
Ouais.
Album en préparation donc.
Ouais,
tu peux nous dire dans combien de temps à peu près ça sort ou c'est pas encore...
2024, je pense.
Ou 2024, ah bah oui, parce qu'on est déjà en 2023.
Ouais.
Mais en fait, j'ai déjà plein de morceaux de prêt, donc ouais, j'espère que ce sera pas aussi long que 2017-2022, ça c'est trop long. Ça,
ouais.
On fait plus, on arrête.
5 ans, c'est long.
Bon, ouais. Nouvel album en tout cas bientôt. Tu tournes pas mal, là, tu te lances dans une tournée, tu disais, on peut aller te voir.
Là, ce mois-ci, au mois de mars, mais je pense pas que la vidéo sera sortie.
Ça va d'ici. Oh, la semaine prochaine, hein, tu sais.
Ah, bah, il y aurait quelques dates encore en France, en fin du mois de mars, début avril. Et puis, je vais faire des teufs à Paris aussi.
Ok.
Pour Rosa Bonheur, au Silencio.
Ok.
Mais là, en tant que.
Festival d'été.
Pour mixer, là,
ouais, je passe de la musique, mais ça reste. Je passe pas mal. Puis des fois, je performe aussi.
Allez.
Je suis pas censée le dire, mais on le fait toujours. et puis, des festivals cet été, ouais, ça va être cool.
Ok,
ouais,
super.
Très chouette.
Bon, en tout cas, suivez Fishback sur les réseaux aussi.
C'est elle qui le gère.
C'est elle qui le gère, plus directement. Ne la harcelez pas en DM.
Je ne réponds pas tout de suite. Mais on envoie des cœurs.
Yes, super. Et puis, on remercie évidemment toute l'équipe de la bouclette pour la technique.
Comme d'hab.
François, notre monteur. François, qui adore Fishback, qui adore ta musique.
On l'embrasse.
Il aurait aimé te rencontrer, malheureusement, il vit à Barcelone. S'il avait été à Paris, il serait venu pour te rencontrer.
La bise à François, là.
La bise à François. À la caméra, dis-lui.
Bisous, François.
Voilà.
Et puis, évidemment, Thomas aussi, qui nous permet de faire cette émission.
Et son Thomas.
Les amis, vous le savez, si vous aimez ce podcast, si vous êtes à la fin, c'est que vous kiffez de façon. Un petit soutien, un petit commentaire, un petit like, une petite étoile sur les versions audio, etc. Ça nous aide. Dans tous les cas, on revient dans 15 jours avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Daz, on va pas parler de rap dans 15 jours non plus. Ça reviendra après, à mon avis. Mais parce qu'on aime bien ça quand même. Mais on
ne sait pas trop enchaîner.
Oui, trop de rap, tu le rap aussi.
Trop de rap, tu le rap.
Ouais, je suis d'accord.
À dans le 15 jours, tout le monde.
Ciao.